trouve que c'est quelque chose de dommage de voir juste la viande achetée en petits paquets à l'épicerie parce que ça t'éloigne de la vie et de la mort. Mm-hmm. Parce qu'on va tous mourir. Puis en plus, avec les... Tu sais, on n'est pas comme dans l'ancien temps quand une personne décède, elle était étalée sur la table de la cuisine.
Ouais.
OK? Tout le monde faisait son deuil, tout le monde gérait le mort.
Oui, s'imprégnait de la mort.
Ça faisait partie du rituel de t'occuper de tes morts. On n'est plus là.
Nancy Meg se fait connaître comme la sorcière. Peut-être avez-vous déjà vu passer des vidéos d'elle sur Internet. Elle nous enseigne comment embrasser ce projet d'autosuffisance qu'elle préfère appeler autonomie. Elle nous explique pourquoi d'ailleurs dans la discussion. Elle fait elle-même son fromage, elle a ses animaux chez elle, des animaux d'élevage, elle a ses poules, elle fait pousser ses légumes, elle fait son pain. Vraiment, c'est quelqu'un qui est capable de se débrouiller dans la vie. Et on est de plus en plus nombreux à avoir ce projet-là. J'avais envie de mieux comprendre comment on peut se partir dans ce projet-là sans que ce soit une montagne. Nancy Meg, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Merci.
Je t'ai découvert d'une façon... j'ai demandé sur Internet qui vous voulez que je reçoive. Ton nom est sorti, puis il y a eu une forte réaction. J'imagine que tu es déjà un peu connue sur Internet. Tu donnes des cours en ligne. Ton site s'appelle lasourcière.ca.
Oui, je donne des cours en présentiel aussi.
Aussi, j'ai vu ça. Puis j'ai trouvé ça tout de suite intéressant parce qu'on s'en va vers un changement de mode de vie. Puis toi, tu as l'air à l'avoir embrassé il y a déjà plusieurs années. Donc, on va faire tout de suite la distinction avant de le nommer entre l'autosuffisance et l'autonomie. Peux-tu m'expliquer la différence?
Oui. C'est sûr que les gens qui me connaissent vont dire que je suis autosuffisante. Mm. Bon, là, je le suis moins parce que mes enfants sont partis de la maison. J'ai 4 enfants. Mais quand les enfants étaient petits, j'avais ma vache que je triais tous les jours pendant 15 ans de temps. J'ai eu des chèvres, des poules, des lapins, tout ça. On avait la chance d'avoir une terre.
Ouais.
Sauf que j'ai toujours trouvé que quand je faisais mon pain, par exemple, que ça ne s'appelait pas de l'autosuffisance. Parce que je n'ai pas cultivé le blé, puis je n'ai pas fait de la farine. Mm-hmm. J'ai acheté de la farine, j'ai fait un pain avec. C'est un peu comme si on disait, je suis autosuffisant, j'ai fait un gâteau.
Ouais, ouais.
Tu n'es pas autosuffisant parce que tu as fait un gâteau.
Ouais.
L'autosuffisance, ça implique que tu as fait de A à Z le chemin. Comme par exemple, pour moi, faire mon fromage, j'étais autosuffisante. C'est-à-dire que j'avais le foin, je faisais les foins, j'avais ma vache. On traillait la vache, je faisais mon fromage avec. Bon, j'achetais 2 ingrédients qu'on a besoin pour faire le fromage, mais j'avais quand même le produit de A à Z.
Ouais.
Ça, j'appelais ça que c'est... Ouais, j'étais comme à l'aise de dire que ça, c'était de l'autosuffisance. Faire mon jardin, c'était de l'autosuffisance, en même temps qu'on achète nos semences, tu sais. Mais bon, là, on peut aller dans l'extrême puriste autosuffisance, mais tu sais, des fois, ça peut être un but inatteignable, l'autosuffisance, parce que tu dis... OK, c'est ça de l'autosuffisance.
C'est sans fin.
Ouais. Ouais, je veux dire, c'est une job à plein temps et
oui,
plus. Là,
oui.
OK? Donc, tandis que l'autonomie, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant à utiliser parce que ça, c'est réaliste. Puis je trouve que c'est ça que les gens ont perdu parce que comme tout le monde fait tout à notre place, donc on achète à l'épicerie tout ce qu'on a besoin, on n'a pas besoin de rien fabriquer, on pourrait acheter tous nos repas, tout fait, hein, tout existe, les restos et compagnie. Fait qu'on a perdu même de faire un rôti de porc ou un rôti, je sais pas quoi, de se faire cuire une omelette. Tu sais, moi, j'ai vu des jeunes qui ont l'âge de mes enfants que ça savaient pas faire que du riz, là.
Oui, j'ai vu.
Fait que là, je me disais, OK, on est rendu vraiment...
Ils savent pas conduire manuel, non. Puis tant qu'à ça, tu sais, on nous a vraiment...
oui, oui, la facilité.
Oui, c'est ça. On
puis à quelque part, on arrête de l'abrutissement. Tu sais, tu deviens dépendant du système beaucoup, beaucoup, beaucoup quand tu fais ça. Parce que si demain matin, ils vendent plus les petits plats préparés, t'es même pas capable de te faire cuire un steak, tu sais.
Ben oui.
Fait que moi, je préfère utiliser le mot autonomie. Tu redeviens autonome dans ta gestion de toi, tu sais, de ton environnement. Fait que tu peux fabriquer tes savons, tu peux fabriquer tes choses, tu vas acheter tes gras, tu vas acheter tes choses, mais tu peux mettre ensemble pour faire les choses. Tu n'es pas obligé d'avoir le produit fini.
Ouais, ouais.
C'est ça,
c'est
la
différence.
C'est
un peu aussi ce que j'entends dans ce que tu décris, tu sais, ça me fait penser vraiment à ceux qui ne veulent pas se dire vegan, vegan, même s'ils le sont, parce qu'ils ne veulent pas tomber non plus dans l'idéologie derrière... que, mon Dieu, si tu manges une fois du beurre sur du pain, là, tu pourrais te faire trancher la tête ou lapider.
Oui,
ou, c'est comme, il y en a qui sont vraiment très puritains dans leur application du principe. Puis comme tu dis, l'autosuffisance, pour être 100% autosuffisant, il faut retourner pratiquement dans une autre époque. Là, maintenant, c'est assez difficile. Le système est tellement omniprésent dans notre vie. On a beau vouloir avoir un pied dans la marge, ça demande un effort. Déjà, juste de faire pousser ses légumes en soi, c'est pas une mince affaire, là. Comment t'en es venue à embrasser ce mode de vie-là?
Bien, moi, j'ai toujours, depuis que j'étais jeune, la santé m'intéressait. Donc, fabriquer, tu sais, puis ma mère, c'est pas une grande cuisinière, puis c'est pas une transformatrice de rien. Je veux dire, elle était au travail, elle avait...
Est-ce que vous aviez une terre aussi?
Non, pas du tout. Okay. Je viens pas du tout de ce milieu-là.
OK.
Pas en tout. OK. OK, zéro, là.
Tu viens d'où?
On a déménagé 13 fois en 17 ans.
Okay.
En 17 ans. OK, fait que je viens d'où? Sur ces 17 ans-là, j'ai resté 5 ans à même place. Fait que ça donne une idée que toutes les autres fois, c'était aussi moins un an qu'on déménageait.
Okay? Pour le travail.
Fait que la place où j'ai le plus resté. Non, mon père était alcoolique.
OK.
Fait qu'il y avait beaucoup de mouvements.
OK. Wow.
Ouais. Et j'ai resté le plus longtemps de ma jeunesse, c'est à Les Cèdres. C'est un petit village dans l'ouest du Québec, près d'Orion-Vaudreuil, Valleyfield, coin-là, sud-ouest du Québec. Et donc, moi, je dis que je viens de là, mais tu sais, je suis née à Montréal, j'ai resté longtemps à Montréal, mais ça, c'était mon petit patelin, parce que je restais là longtemps, fait que j'ai des appartenances là.
Wow, ça doit être dur quand même, comme enfant, on fait une parenthèse, mais comme être déraciné tout le temps comme ça.
Oui, parce que c'est ce que je voulais pas pour mes enfants. Fait que moi, ils ont resté où on est là présentement toute leur vie.
Puis vous avez en fait vos racines, là.
Oui, moi, j'avais pas de racines, fait que j'étais très vulnérable. Tu sais, là, la celle qui se fait bullying, là, qui se fait intimider un peu, c'était pas comme on voit, là, je me faisais pas enlever mes lunchs, mais tu sais, moi, me faire mettre la boîte à lunch sur la tête, me faire sacrer une claque sur la gueule, là, tu sais. Des affaires que tu fais.
Ouais, t'écrases, là.
Ouais, ouais. Puis mon père était alcoolique et assez rock'n'roll, là, tu sais, genre faire partie des gangs de bicycles, là.
OK.
Puis donc, lui, il voulait pas qu'on soit comme lui, fait qu'il nous disait, vous vous défendez pas, vous vous battez pas, vous... Fait que là, c'était comme... Encore plus comme tu sais, parce qu'il voulait pas qu'on soit comme lui, fait que fallait pas se défendre, tu sais, c'était comme...
Ah, c'est étrange.
Tant l'autre jour,
j'ai des
puis moi, je voulais pas me faire chicaner par mon père, fait que j'écoutais, tu sais. Fait que ça fait en sorte que tu te ramasses toujours un petit peu tout seul à l'école, pas trop d'amis, ou un peu, ou tout le temps les moins le fun à avoir, tu sais.
Vous vous retrouvez ensemble par dépit plus que par affinité,
exact. Ouais. Fait que finalement, ben moi, je m'étais dit que je ferais pas ça pour mes enfants, puis qu'il y aurait de la stabilité pour avoir la stabilité adulte aussi, hein, parce que ça nous suit, là, qu'on devient un peu...
On est programmé dès l'enfance.
Ouais, mais en même temps, ça m'a fait une force que moi, je suis capable, je suis très polyvalente. Moi, je peux, demain matin, je vais coucher à terre ici, puis je vais dormir ici, pas de problème. Je vais aller en camping n'importe où, puis je vais coucher n'importe où, parce que je suis habituée de bouger comme ça, tu sais, ça fait partie de mes racines. Fait que je suis très adaptable.
Ouais.
Tu sais, j'allais donner des formations, des fois, dans des maisons, là, c'était minuscule, pas de problème, on trouve une solution. Ouais, ouais. Tu sais, je suis adaptable. Mais quand je suis en contact avec des gens, je peux être un peu, au début, très gênée. Il y a toujours cette racine-là, tu sais.
Ouais.
Fait que quand on est déménagé... En fait, moi, je suis allée étudier à l'ITA de Saint-Hyacinthe, l'Institut de technologie agroalimentaire. Donc, j'ai étudié en technique alimentaire, spécialisation produits laitiers. Donc, le but, c'était de travailler en industrie... Moi, je voulais être fromagère. Donc, j'ai fini par être fromagère. J'ai connu mon conjoint là.
Il voulait être fromager, lui aussi.
Oui. Ben, il aurait travaillé n'importe où. Il aurait travaillé n'importe où. Tu sais, on pouvait travailler d'une industrie de pain, de viande, peu importe.
OK.
On avait les compétences pour tout ça, mais on était spécialisé en, produits laitiers. Donc, ben moi, je l'ai connu là. On était dans la même classe. Fait que ça fait 37 ans qu'on est ensemble. on s'est connus à 17 ans. Et là, on est déménagé dans sa région, qui est la région de Victoriaville. On a déménagé à Saint-Valère. En fait, on a déménagé à Victo au début, mais on se cherchait une maison et on s'est retrouvés dans le même village où lui a été élevé. Et lui a été élevé sur une ferme laitière.
Okay.
Donc, il avait tout de suite envie. Tu sais, nous, on s'est acheté une petite terre de 50 acres. Bon, vous allez me dire, c'est pas petit.
C'est pas petit, oui, c'est ça.
Mais pour un agriculteur, c'est minuscule.
Ouais, ouais, ouais. Okay. Ouais.
Fait que c'était une fermette qu'on appelait. Ouais. Maintenant, les fermettes, c'est 52 000 pieds carrés. T'sais, nous autres, on a 50 acres.
C'est une fraction de ce que vous avez.
Oui, c'est ça. En plus, on a une forêt de 50 acres. Fait qu'on a en tout 100 acres, tu sais.
Dans le coin de Victo.
Oui, dans le coin de Victoriaville.
C'est cool.
Fait que sur la maison qu'on a achetée, il y avait une petite ferme. Il y avait une étable. Puis là, mon conjoint voulait avoir des animaux de boucherie, fait qu'on a commencé par ça. Moi, je connaissais pas ça, là. J'ai zéro connaissance là-dedans. Puis je suis fromagère, mais je sais pas qu'on peut faire du fromage à la maison. Moi, j'ai appris à faire ça en usine.
Ah, ben oui.
Fait que je sais même pas que ça peut se faire, tu sais. J'ai même pas ce
réflexe-là. C'est à ce point, pas touché à l'école.
Écoute, non, à l'école, c'est pour travailler en industrie, ce qu'on fait. Puis je fais partie d'une association de jardinage biologique à cette époque-là. Et une des filles là-dedans, elle est autosuffisante. Et elle fait son fromage. Elle fait son jardin autosuffisante, genre 100%. Là. Elle n'achète pas de légumes le reste de l'année quasiment. Même pas l'hiver, elle a tout ce qu'il faut. Elle a son caveau, elle a toutes ses affaires. Elle fait vieillir des fromages. Puis là, sur le coup, je vais la visiter chez elle, puis je la vois faire le fromage. Mais moi, je suis brainwashée de stérilisation, là, je veux dire. Ah. J'ai étudié pour l'usine, là,
ouais.
OK? Tout doit être, là, mais stérile, là,
ouais.
Presque, OK? Là, je la vois faire ça dans sa maison, puis je
plein
me dis...
Plein de bactéries!
Mon Dieu, ces enfants vont mourir!
Oui, oui, oui! Ils sont pas morts!
Puis finalement, je reviens chez nous, puis je me dis, « Hey, la mère, calme-toi, là! Mm. » Dans l'ancien temps, là, ça marchait pas comme dans les usines,
non,
ça marchait comme chez elle. Puis là, ça, elle, c'est mon mentor. C'est elle qui m'a toujours stimulée... La simplicité, vraiment. Puis, tu sais, ils ont construit leur maison, puis ils ont construit leurs étables. Ils démolissaient des vieilles étables de bois pour les reconstruire chez eux chaque fois qu'ils ont eu des maisons. Ils refaisaient tout seuls, quasiment, tu sais, vraiment, là. Puis, très peu de salaire. Moi, en tout cas, ils m'impressionnaient, là, tu sais. Et, mais ils étaient tous les deux à la maison, là. Leur job, c'était ça.
Ben, c'est ça, finalement. T'as pas le choix, là. C'est
Non.
Job à temps plein, comme tu dis. Ben,
absolument. Plus qu'à temps plein. Tu travailles bien moins que ça quand tu vas travailler dehors,
là. C'est comme avoir des enfants. C'est 90 heures semaine.
Oui, puis ils en ont eu 4, eux autres aussi, là.
Ah, là.
OK? Fait que, elle m'a dit à un moment donné, « Tu veux-tu avoir des chèvres? Tu sais pas, là. J'aimerais ça, moi, un animal, là.
Ah,
j'ai
ouais.
des vaches de boucherie, moi. »
C'était pour faire le fromage de chèvre.
Oui, c'est okay. ça. Fait que là, j'achète une première chèvre. Mais là, c'est chialeux, des chèvres. Là.
Ah,
si
ouais.
elle est toute seule, t'as beau avoir 4 vaches avec, pour elle, elle est toute seule dans sa tête.
Elle s'entend pas
chiale,
bien
elle bêle là, toute la journée, tu sais, elle nous voit, là.
Ah.
Là puis mon chum aime pas ça, ce cri-là.
C'est vrai que ça peut être assez gossant.
C'est comme un enfant qui braille, tu sais.
Ouais, ouais,
fait que là, on a dit, OK, on y en achète une deuxième, là, parce qu'ils vont tout le temps être en train de se battre, mais ils vont être contents.
Ils vont trouver leur fun.
Ouais, c'est ça. Fait qu'on a acheté une deuxième. Puis après ça, cette amie-là, elle est partie en voyage, puis elle m'a vendu sa vache. Hey, là, c'est un contrat pour moi.
Ouais,
wow,
ouais.
OK, c'est pas une deux petites chèvres à traire, là, c'est une vache, là.
Ouais.
Fait que j'ai appris à traire. Ben, je savais déjà traire, mais j'ai appris à gérer une vache. Puis
ouais,
j'en avais déjà
format.
Des animaux de boucherie, tu sais, on avait déjà des vaches de boucherie. Fait que...
Qui étaient élevées dans le but d'en faire l'abattage, puis...
En fait, c'est qu'à chaque année, ils se font accoupler, puis ils donnent un veau, et on envoie les veaux à l'abattoir pour vendre à des clients.
OK.
Puis on en gardait un pour nous.
OK. Puis vous... Donc, après la vache qui a donné le veau, elle a produit le lait.
Oui,
c'est elle
toujours.
Que vous pouvez continuer de
c'est
traire.
Comme une femme, hein? Quand tu...
Tant que tu stimules la glande, elle continue de produire
quand
du lait.
Quand t'es enceinte, tu donnes du lait.
Oui.
Après.
Oui.
Tant que tu vas pas tarir ton enfant, tu peux l'allaiter jusqu'à 5 ans.
Oui, il y en a qui font plus vieux encore.
C'est ça. Puis une vache, c'est pareil.
Mm-hmm.
Sauf que c'est une vache, c'est un peu comme un chevreuil en quelque part. Là. Des fois, les gens, il y en a qui disent « Ah, c'est de l'abus faire venir une vache enceinte à chaque année. » Et tous les animaux de la forêt font ça, là.
Puis aussi, c'est parce que les gens sont pas conscients de ce qu'ils endosent quand ils achètent leur viande à l'épicerie. Là, on abuse pas mal plus les animaux qui sont élevés.
Ça dépend. Il y a des,
ouais, y a des élevages qui sont probablement
ouais.
plus éthiques
oui,
que d'autres.
Absolument. C'est comme nous, on élevait la vache, elle était dehors tout l'été.
Ouais.
Il était moitié du temps dedans, moitié du temps dehors. Parce que nous, on n'avait pas les équipements pour les laisser dehors l'hiver. Parce que tu sais, il faut pas qu'ils se ramassent dans la rue, là, ces vaches-là.
Non, c'est ça. On n'est pas dans un pays où on est habitué de retrouver des vaches dans la rue.
Non, puis ça coûte cher d'assurance quand ils savent que tu peux te faire revenir contre toi parce que ton animal était dans la rue, là.
Ouais, ouais.
C'est rendu comme ça même pour des poules, imagine. Fait que,
pour vrai?
Ouais, ouais. Si t'as pas averti tes assurances que t'as des poules, watch out, là. S'il arrive de quoi.
Ça... On en prend bonne note.
Ouais, j'ai entendu des histoires pas drôles.
Ah ouais.
Donc, nous, ben, on était producteurs agricoles, mais c'est ça, nos vaches étaient en dedans. Fait qu'eux autres, ils mettent bas au printemps, la maman donne du lait, le veau, rendu à 8 mois, on le fait abattre, donc elle va tarir, elle va arrêter de donner du lait. Mais pendant l'été, elle s'est faite réaccoupler, là.
Ah, déjà, OK.
OK, comme une femme peut retomber enceinte, même si elle allaite, là.
Ouais.
Il y en a que non. Moi
c'était
pas
c'était
le cas.
Pas possible. Ouais.
Moi, je ne pouvais pas tomber enceinte si j'allaitais.
Mm-hmm.
Mais une vache, oui. Fait que pendant qu'elle continue d'allaiter son bébé de l'année, elle commence à avoir un nouveau bébé dans son ventre. Puis là, ben, deux mois, en fait, tu vois, au mois d'octobre, mettons, on envoyait les veaux à l'abattoir. Ben, elle a fini ça, sa grossesse, puis elle avait un autre nouveau veau en février, mettons.
OK.
Fait que ma vache allait, c'était un peu le même principe. Sauf que elle, quand son veau partait à l'abattoir, ben moi, je continuais à la traire.
Ouais, c'est ça.
Mais deux mois avant sa mise bas de son nouveau bébé, là, on arrête pour qu'elle garde ses énergies.
Ouais, OK.
Fait que dans le fond, je traillais 10 mois par année.
OK.
À tous les matins, à tous les soirs.
Wow.
Il n'y a pas de break, là.
Aïe, aïe.
Puis c'est...
Tu peux pas sauter une fois.
Non, tu peux pas sauter une fois, parce que sinon, on va faire une mammite.
Wow, comme nous, quand
ça... Exactement. Wow, c'est ouais. Une femme, un jour, deux sans allaiter, là.
Oublie ça.
Oh, tu viens les seins durs jusqu'ici, ouais, ouais. Puis là, tu fais des c'est infections. Souffrant, puis ouais. Ouais. Fait qu'une vache, c'est la même chose.
Mm-hmm.
Donc, nous, on réussissait à 3 jours par année à prendre un congé. Fait qu'on trouvait quelqu'un qui trayait notre vache. Ça, c'est pas évident à trouver, là.
Non.
On est dans un rang, il y en a qui ont déjà eu des fermes, il y en a qui nous aidaient, qui le faisaient. Mais à chaque année, c'était un genre de petit combat de « bon, on prend-tu des vacances 3 jours? » On partait avec les enfants 3 jours, tu sais.
Aïe, aïe.
Puis, mais on partait le matin, mettons, je trayais plus de bonne heure que d'habitude. Moi, je trayais 7 heures le matin, 7 heures le soir, à peu près.
Okay.
C'est ça mon beat. Puis avant, mettons, on sait qu'on s'en va aux eaux de Granby aujourd'hui, mais je vais traire à 6 heures,
ouais.
On part à 7 heures. Puis écoute, on soupait là-bas, on amenait nos hot dogs parce que ça coûte bien trop cher là-bas. Mais...
Ouais, ouais.
Puis on soupait là-bas, puis là, on revenait, puis on trayait. Moi, je trayais ma vache dehors. Fait qu'on mettait les spots du char vers la vache, puis je trayais ma vache, tu sais.
Mais c'est une dévotion.
Oh oui, il faut que tu veuilles, il faut que ce soit... Puis moi, j'étais à la maison, parce que j'ai travaillé finalement, après mes études, 1 an et demi en fromagerie,
okay.
Fromagerie de chef. Donc là, j'ai appris à travailler, à faire des fromages que j'avais pas appris à l'école. Fait que je trouvais ça le fun de pouvoir apprendre les deux.
Ouais.
Et donc, chez moi, ben j'ai tout fait ces fromages-là, parce que j'avais toutes les techniques, tu sais.
Mm-hmm.
Et j'ai décidé de rester chez nous parce que, tu sais, mon salaire, j'étais la plus payée de l'usine, non? Puis c'était une petite usine, c'est pas Lactantia. Mon chum travaille chez Lactantia, mais nous autres, c'est petit, là. C'est une fromagerie de chèvre, là. J'étais payée 8,50 $. J'étais la plus payée de l'usine, plus que les boss.
En quelle année?
En 92, 91 à peu près. 1991. Fait que, c'était, mettons, les salaires bons, là, dans ce temps-là, c'était 16 $. T'étais mauditement bien payé. Okay,
ouais.
On recule, là, c'est normal.
Ouais.
Okay. Sauf que moi, j'étais à 8,50 $. Mais je voulais même pas travailler dans une grosse usine parce que je voulais avoir une vraie ambiance de travail intéressante. Parce que tu sens que c'est toi qui fais le fromage, que c'est pas les machines.
Ouais, ouais.
Donc moi, c'est ça que je voulais. Fait que j'ai travaillé 1 an et demi là, mais là, je tombe enceinte. Puis ça, puis là, on a regardé ça. Tu sais, les gardiennes, t'es pas à 7 $ là.
Non.
À 7 $ par jour. Là. Ça non, me coûtait ça. Dans le temps 10 $ par enfant par jour. Ma paye y passait quasiment là.
Okay. C'est vraiment un des très bons côtés du Québec maintenant, là, des
subventions. Oui, mais en même temps, tu sais, c'était comme... Non, moi, je veux pas avoir le stress d'aller reconduire mes enfants à l'école, à la garderie, d'aller les chercher, d'aller travailler.
Mm-hmm.
Oh non, je voulais pas cette vie-là, moi.
Fait que tu t'es dit, je vais rester à la maison. T'étais maman à la maison.
Oui, je faisais plus d'argent comme ça parce que je peux te dire qu'un salaire avec 4 enfants... Les allocations familiales, t'es élevé en tabarnouche, là.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que la paye que ça me donnait, c'était plus quasiment que mon salaire.
Mm.
Dans le sens, j'avais pas de deuxième voiture à avoir besoin.
Ah oui, il y a ça.
J'avais pas de deuxième voiture parce qu'on restait en campagne. Tu peux pas aller à 60 km, 80 km de chez vous en bicycle à tous les matins.
Non, non, c'est okay? ça.
Fait que ça prend une auto. J'avais pas besoin de me trouver des vêtements ou de je sais pas quoi. Je veux dire, je vivais chez nous. Puis ça me coûtait, sais-tu combien ça me coûtait d'épicerie? Pour les
ben 6. Déjà, tu faisais à ce moment-là, tu faisais quasiment tout.
Ça me coûtait 50 $ par semaine d'épicerie. Je faisais c'était pas quoi? Mes spaghettis.
Okay.
OK. Je faisais pas mon riz.
Ouais.
Le papier de toilette inclus là-dedans, là, c'est pas ça plus la pharmacie. Là, c'était tout ça. Les huiles, l'huile d'olive, ces choses-là, je les fabriquais pas. Donc, je m'achetais des choses comme ça, certains fruits et légumes, parce que je produisais pas à l'année. Moi, j'avais pas le temps de produire ça à l'année.
Ouais.
Mais donc, j'achetais quelques affaires comme ça, une poche de farine de 20 kilos pour en avoir pour longtemps. Moi, je faisais mes 8 pains à tous les mardis matin. J'avais mes pains pour la semaine, tu sais, je congelais. Fait que j'avais trouvé des façons d'économiser comme ça, en achetant en gros, en plus gros, pour pouvoir moins dépenser. Puis même quand mes enfants étaient adolescents, ça a juste monté à 75 $ par semaine.
Aïe, aïe.
OK. Oh. Mais j'avais ma viande, j'avais mon fromage, j'avais mon lait, je faisais mon pain. Je veux dire, ça coûtait 50 cents de faire un pain, là.
Mais quand tu dis que tu avais ta viande, ça veut dire que là, tous les animaux que vous aviez à la maison, vous finissiez par les abattre, les faire couper.
Pas tous. Puis... Les vaches, on les gardait pour donner les veaux. À okay. chaque année.
Mais vous aviez assez d'animaux qui allaient produire de la viande.
Oui, oui,
puis après, tu sais quoi, tu t'es congèles, tu avais plusieurs congélateurs?
J'avais 2 congélateurs.
OK.
Ouais.
Puis tu étais bonne pour ta rotation pour l'année avec ça?
Oui. J'avais, fois, on élevait des poulets de grains, des poules blanches, là.
Mm-hmm.
On élève ça, on abat à l'automne, ça, c'est nous autres qui fait ça. Puis c'était juste pour nous, c'était pas pour vendre. Fait qu'on en avait, mettons, 12, fait qu'on avait un poulet par mois. Dans le sens qu'un poulet nous donnait 5 repas pour toute la gang. Fait que, tu sais, on mange pas du poulet tous les jours. Ouais. Fait que avec ça, nos veaux, on a eu des lapins aussi.
Okay.
Mon fils, à l'âge de 9 ans, je me suis fait donner un lapin. Quand que lui avait 8 ou 9 ans. Là, je fais comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Non? C'est un lapin pour la boucherie, là,
ouais,
un
ouais.
gros lapin, là, ouais. d'étable. Là, je dis, ben Colin, ça vous tente-tu, je dis aux enfants, qu'on aille des lapins, tu sais. Mm. Fait que là, c'était tout, oh oui, oui,
mais
oui.
Il allait pas dire non.
Fait que là, on est allé se trouver, je pense que on avait une femelle, on est allé se trouver un mâle. Hey, ça popule vite, ça.
C'est pas un mythe.
Non.
Ah ouais.
Fait hein. que mon fils s'est occupé de ça sans qu'on lui demande, matin et soir.
Il avait quel âge, c'est?
Il avait 8-9 ans, okay. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il s'est occupé de ça. Quand il est parti pour l'école... On n'en revenait pas. On n'avait même pas besoin d'y demander. Là,
il a pris ça sur ses épaules, oui, les lapins.
Sept jours.
Comment ils réagissaient, les enfants, quand tu étais rendu à abattre les animaux?
Ils savaient. Ils
ouais.
étaient habitués.
Oui, ça fait partie de la vie.
Oui, là. Oui. Puis je trouve que c'est quelque chose de dommage de voir juste de la viande achetée en petit paquet à l'épicerie parce que ça t'éloigne de la vie et de la mort.
Mm-hmm.
Parce qu'on va tous mourir. Puis en plus, avec les... Tu sais, on n'est pas comme dans l'ancien temps, quand une personne décède, elle était étalée sur la table de la cuisine.
Ouais.
Okay? Tout le monde faisait son deuil, tout le monde gérait le mort.
Oui, s'imprégnait de la mort.
Ça faisait partie du rituel de t'occuper de tes morts. On n'est plus là.
Non, mais tu viens de le dire, en fait, le mot rituel, on n'a plus de rituel.
C'est ça. Puis on s'éloigne de tout. On s'éloigne de notre bouffe, c'est plus nous autres qui la produisons. Fait que là, dès qu'on voit quelque chose qui va abattre quelque chose, je me dis, écoutez, là, si l'humanité... Ça n'avait pas été ça, on ne serait pas là pour en parler, là.
Mm-hmm.
Parce que, pense juste aux Amérindiens, les ouais. Blancs, quand ils sont arrivés ici, là, ils n'ont pas mangé de la salade, là.
Mm-hmm.
Tout le monde avait une ferme, puis voulait des animaux, parce que ça, c'est une protéine qui nourrit, là.
Ouais, c'est ça, ça tient longtemps.
Fait que fallait que tu ailles chasser, ou fallait que tu les élèves. Puis le gouvernement a décidé qu'il y avait des places qui n'avaient plus le droit de chasser, ça fait que fallait que tu les élèves, tu sais.
Mm-hmm.
Puis les Amérindiens se sont un peu fait pogner comme ça aussi, parce que là, tous les gouvernements ont enlevé l'accès aux forêts. D'abord, comment ils se rendraient pour la chasse avec les canaux?
Ouais.
Imaginez les bio dans les rivières, là.
Ah ouais, pour les usines c'est de pâte et
fini,
papier.
Fini. T'as plus accès, même si tu veux, à tes zones de chasse.
Mm.
Et ni de pêche. Comment tu veux mettre une ligne à l'eau avec des bio
ouais, dans les rivières? Ouais, ça venait de saccager tout ce qu'ils faisaient.
Il y en avait partout, là. Partout, là. Ouais. Plein de rivières étaient harnachées comme ça.
Ouais.
C'est que là, t'enlèves la vie à une personne, c'est sa manière de se nourrir, puis tu lui dis demain matin, tu restes chez vous, on te donne du porc puis des bines. Fait que là, tu sais, on se demande pourquoi ils sont un peu pas contents. Regardez ce qui s'est passé il y a 2-3 ans, c'est tout fait enlever ce qu'on avait envie. N'as-tu qui était content? Puis on avait tout, là, je veux dire, on avait quand même le droit de l'épicerie,
ouais.
On avait quand même gardé notre maison. À souhaiter que ça reste de même, on avait quand même le droit de garder des choses. Là,
ça s'est amenuisé à un moment donné, l'épicerie, on n'était plus sûr qu'on y aurait droit. Il y avait des stress par rapport à ça. On a goûté à ce que ça pourrait être.
C'est ça. Puis on se surprend de voir qu'ils sont révoltés puis qu'ils sont tombés dans la drogue puis dans la boisson.
Ouais.
Il y en a qui se sont suicidés là, avec ce qui s'est passé.
Ben, il y en a plein, j'en connais plein.
Fait que comment tu veux... Comment c'est pas facile d'imaginer cette situation-là?
Ouais,
fait
ouais.
que, tu sais, moi, je trouve que... C'est là qu'on réalise le précieux de savoir faire les choses
ouais.
pour se débrouiller, puis être capable de pas... Tu sais, quand même qu'il n'y a plus de pain à l'épicerie ou de papier de toilette. Là. Mm. On s'entend-tu, là, que du papier de toilette, là, moi, je n'utilise même pas, là.
Non,
j'ai
ça,
des vieux tissus, de vieux linges que j'ai coupé des morceaux dedans, puis c'est ça que j'utilise.
Mm-hmm.
Bon, pas pour tous les besoins,
ouais.
mais pour les besoins généraux, là. Mettons un rouleau de papier de toilette, moi, je suis sûre, si je suis seule chez nous, il me dure un mois, là.
Ah, wow! Okay. OK. Mais t'as complètement changé ta façon de vivre, tu sais. S'il y a eu... Aussi, je t'écoute parler, puis tu sais... Pour bien des gens, ce serait beaucoup de compromis qu'ils ne seront pas forcément prêts à faire.
Absolument.
C'est absolument.
C'est pour ça que je dis, c'est pour ça que je dis, moi, je trouve pas ça logique de dire aux gens, il faut tout vous deviner autosuffisant. Ça n'a pas de bon sens. Tout le monde devrait avoir des terres. Alors, c'est pour ça que je parle d'autonomie.
Mm-hmm.
Puis, pour moi, c'est de retrouver... Tu sais, là, il y a des gens qui veulent absolument avoir une commune, là, tu sais, puis tout le monde va tout faire. Tu penses-tu vraiment, là, que parce que vous avez le même genre de but, que vous n'allez jamais vous ostiner?
Non, c'est sûr, la plupart des communes se dissoutent justement
absolument.
Parce que la chicane punk, c'est pas
exactement,
long,
là. Exactement, exactement. Là, t'en as qui ont des idéologies bien différentes des tiennes. Mettons, toi, tu vas voir des animaux, puis t'as des gens là-dedans qui n'en veulent pas, ça va faire une guerre.
Oui, c'est ça.
OK? Alors, pourquoi pas, à la place, vous en avez des communautés... Ils vivent tous à côté de chez vous. Vos voisins en face, vos parents, votre dépanneur, votre épicerie, c'est votre communauté.
Ouais.
Mais là, vous avez vous avez voulu devenir autonome, autosuffisant, en faisant tout vous-même puis en vous fermant du reste.
Mm-hmm.
Là, vous ne voyez pas toute l'aide que les autres peuvent apporter, puis vous ne voyez pas celle que vous pouvez apporter à la société.
Mm-hmm.
Fait que c'est ça qu'il faut retrouver, de réaliser que nos gens autour de nous, c'est eux notre commune. C'est notre communauté. Fait que l'affaire la plus dure à faire sur la Terre, c'est les relations humaines, quant à
Absolument, absolument.
C'est ça que je trouve le plus dur. Moi, je peux faire toute ma bouffe si je veux, mais les relations humaines, je trouve que c'est ce qui est le plus difficile. Mm-hmm. Parce qu'on s'engueule pour rien.
Oui, puis on a tous nos blessures, on a tous nos points,
on
n'a
pas appris non plus à l'école. On a zéro apprentissage sur comment gérer les relations humaines. Non.
Pourtant, ça devrait vraiment être enseigné à l'école. Là,
absolument. C'est de même qu'on fait des guerres, c'est en connaissant pas l'autre puis en n'étant pas capable d'interagir avec l'autre.
Oui, puis de confronter nos idées.
Exact.
Accepter que quelqu'un n'a pas le même point de vue que nous. Toutes ces choses-là, maintenant, c'est comme s'il ne pense pas comme moi, c'est de la violence.
C'est ça.
Je me ferme les oreilles.
C'est ça. Fait que d'ouvrir à ce que tout le monde autour peut nous aider à avoir, ben ça
travailler avec ton concret, finalement. Ce que tu dis, c'est que... Parce que là, ce que j'entends, c'est que les gens sont beaucoup dans la panique de se dire « Il faut que je parte autosuffisant avec ce qu'on a vécu. Si ça se reproduit, s'il resserre les taux encore, qu'est-ce qui va arriver? OK, bon, on n'a pas le choix. Il faut. » Là, les gens se disent... Ils se lancent pas dans ce projet-là par passion, parce que ça leur tente. Ils le font parce qu'ils ont peur.
Ils resteront pas longtemps.
Mais c'est sûr, ça peut pas être une bonne motivation, la peur. Puis je trouve ça intéressant ce que tu amènes, parce que en fin de compte, oui, la communauté, elle existe.
Ouais.
On est tellement individualiste, malheureusement. Puis tu sais, nous autres, en plus, on habite proche de Montréal. Fait que il y a beaucoup ça. Les voisins ne se parlent pas beaucoup dans notre où on vit. Un peu, mais pas tant que ça. Tu sais, je serais pas portée à aller demander une livre de beurre ou du lait s'il me manque du lait chez mon voisin. Là. Alors que quand j'étais petite, c'était vraiment
bien
que ma voisine traversait la rue,
ben oui.
On demandait du sucre. Ben puis, il y avait zéro problème, mais tu sais, là, c'est devenu comme on veut pas déranger. Puis... Fait que tu sais, déjà, ça demande de réapprendre un peu notre façon de vivre en société pour pouvoir se recréer vraiment des liens de confiance, puis là, pouvoir s'ouvrir à quelque chose de réaliste.
Oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que moi, mettons, même dans mes formations, c'est, j'appelle ça de l'autonomie. Tu sais, mettons, faire tes légumes lacto-fermentés pour conserver des légumes. Bon, t'as peut-être pas de jardin, mais je suis sûre que, je connais pas votre région ici, là, il y a un agriculteur ici qui c'est un producteur de fruits et de légumes.
Ah,
qui fait des paniers.
Ouais,
souvent,
oui,
ça existe, ça. Sinon, il y a les kiosques d'été, là, où est-ce qu'ils vont porter leurs légumes. Pourquoi t'achètes pas ça là? Puis tu transformes tes lactos, ça va te coûter bien moins cher que de l'acheter toute faite.
Mm-hmm.
Puis tu vas avoir la fierté de l'avoir fait, de l'avoir appris, puis d'avoir conservé ces notions-là qui existent depuis mille ans. Puis ça prend pas d'autoclave, ça prend pas d'électricité, pas de frigidaire, pas de congélateur.
Okay.
Ça en est une autonomie,
c'est assez simple.
Ça. Ouais. T'as plus d'électricité demain matin, tu vas avoir quand même ça à manger.
Mon Dieu, je serais malheureuse. J'aime pas les affaires fermentées, mais il va bien falloir
mais c'est un exemple, tu sais.
Ouais.
Sinon, ça se conserve des légumes d'une façon différente, mais sauf que t'es pas obligé d'avoir des tomates 365 jours par année.
Ouais, ouais, ouais.
C'est là que nous, on est devenus ben trop gâtés aussi, où est-ce qu'on veut tout le temps.
Mm-hmm.
Nous autres, on veut des framboises l'hiver.
Ouais, ouais, c'est ça. Ben, on nous a habitués à ça. C'était pas comme ça dans le temps de
nos parents. Écrime, c'était pas comme ça, moi, quand j'étais jeune. T'avais pas des framboises à l'épicerie. Même quand j'étais au cégep, là.
Cégep. Moi, c'est ça. Moi, c'est mes parents, c'était en saison. Là, c'était des
c'est
pommes.
Ça.
Pis,
c'est ça.
C'était pas, il y avait pas vraiment de fruits exotiques qui rentraient. Du melon d'eau l'été, là. C'était
c'est
pas
ça.
Mal tout, là.
Hey, s'il y avait des raisins, moi, c'était la fête, là.
Ah, ouais.
Moi, j'allais chez ma grand-mère, je suis contente. J'ai une de mes grand-mères, quand on allait chez elle, mes parents, ils allaient jouer aux cartes avec elle. Fait qu'on restait dans le salon, puis on jouait, moi, puis ma sœur. Puis elle nous mettait des raisins sur la table. Ma grand-mère nous a jamais donné des bonbons, des choses comme ça. Hey, on ne savait même pas si on avait le droit de toutes les manger. T'sais, c'était quasiment tellement précieux.
C'était comme des bonbons.
Hey, oui, ça en est aussi. C'est même trop
sucré
dans la vie, là. Mais c'est-à-dire que, tu vois, je suis contente d'avoir eu ce background-là, de pas trop m'être fait gâter avec des bonbons.
Ouais.
Puis, mais c'est pour dire que c'était un spécial pour moi, ça. Mm-hmm. Mais là, on est rendu qu'on on veut tellement aussi pas passer pour des mauvais parents qu'on pense qu'il faut acheter toutes ces affaires-là à nos
c'est
enfants.
C'est un bon point.
Puis, il faut avoir tous les légumes, puis tous les fruits sur la terre, parce que sinon, tu parais pour un mauvais parent.
Oui.
Alors que j'ai vécu, moi, avec des carottes, des patates, puis du céleri. C'était ça, les légumes
qu'on
avait
dans le frigidaire. Oui, puis de la viande brune, avec de la sauce brune. Là,
tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de grand luxe, là.
Non, c'est ça.
Puis des avocats, ça n'existait pas, là.
Eh boy, non, vraiment pas.
Des kiwis, c'est arrivé quand j'avais à peu près 18 ans.
Ouais,
OK? 16, à peu près.
C'est fou, parce qu'on n'a pas le même âge, mais quand même, on voit à quel point ça s'est transformé complètement. Puis tu sais, c'est sûr que c'est l'ouverture au monde, puis... il y a quelque chose de riche, puis je suis contente de pouvoir faire goûter des melons miel à ma fille, puis tu sais, du fruit du dragon, ou ce genre de trucs-là que que j'aurais pas pu faire, je l'amène en Indonésie pour en manger sinon, mais en même temps, comme tu dis, là, c'est quand tu veux aller vers un mode de vie d'autonomie, il faut être capable d'accepter qu'il y a des saisons pour les légumes exact. Et les fruits.
Exact.
Ouais.
Puis que on n'est pas obligé de manger des fruits exotiques, tu sais.
Ouais.
Je veux dire, ça peut être des fruits. Puis en plus, moi, je mange presque plus de fruits parce que je suis en alimentation faiblement glucides, là.
Ah ouais,
okay. On va pas mourir de ça, là. On se fait brainwasher que ça prend tout ça, mais pourquoi? Parce qu'il y a une industrie en arrière qui veut te le vendre, là.
Ouais.
OK? C'est de la méga-industrie, là. Mm-hmm. Je le sais, je travaille là-dedans, j'ai étudié là-dedans.
Là. Tu dirais-tu que l'industrie qui supportait justement les produits laitiers, on a eu l'impression à un moment donné que c'était un peu faux, puis que c'était pas vrai, qu'on avait besoin tant que ça pour nos os, puis le développement des os.
C'est absolument vrai qu'on en a pas absolument besoin. Moi, je suis convaincue qu'on n'a pas besoin de ça. Mais moi, j'aime ça.
Ouais, ouais.
Mais je vais pas manger un yogourt sucré de l'épicerie.
Non.
OK?
Je le sucre avec du miel?
Non, je le sucre pas du tout.
Non, moi, je sais pas comment vous faites. J'ai du yogourt nature.
Eh oui, mais c'est parce qu'on est devenus des hyper consommateurs de sucre. Là.
Ah oui, à
et
fond.
Ça fait que la santé à 40 ans, là, on a 88 % de la population qui a des problèmes de prédiabète. 88 %, c'est pas pour rien, là. Tous les sucres qu'on mange, là.
Ah non, c'est clair. C'est ridicule. Ça fait à peu près un mois que mon chum et moi, on a coupé le sucre. Quand j'ai coupé le sucre, je veux dire, les produits raffinés, sucrés artificiellement, là, tu sais, je cuisine avec du sirop d'érable ou...
Ça risque que c'est du sucre que ton corps doit gérer pareil.
Oui, c'est ça, j'en suis consciente, mais je pense que c'est... Pour moi, c'était coupé du tout au tout, je serais morte, tu sais, c'était pas possible. Ouais. Je suis consciente, c'est une drogue, puis je suis vraiment dépendante au sucre, fait que je me suis dit, je vais y aller comme c'est réaliste pour moi. Puis, tu sais, déjà, je trouve que c'est vraiment... notre qualité de ce qu'on mange est vraiment meilleure. Mm-hmm. Puis aussi, j'ai moins d'envie de sucre. Mm-hmm. Tu sais, le fait qu'on a coupé les desserts, les collations sucrées. Fait que tu te rends compte que ton système en redemande parce qu'il est habitué d'en avoir.
C'est une drogue.
Oui, ouais, vraiment, c'est vraiment une drogue.
C'est ce qui est plate, c'est une drogue socialement acceptable.
Comme le vin.
Exactement. Mm-hmm. Fait que comme la bière, comme tout.
Ouais.
Tu sais, moi, c'est sûr que moi, j'ai un background d'indépendance. Là. Mon père était hyper alcoolique et drogué. Là.
Fait que toi, t'as été comme en réaction. Ah, t'as pas touché moi, à ça. Là,
mais écoute, j'ai du sucre, j'en ai mangé en masse dans ma vie. Là. OK, c'est nouveau. Là. Ça fait 6 ans que je ne mange plus de sucre.
Okay.
Ça fait 4 ans et demi que je ne mange plus aucun féculent. Pas de patates, pas de riz, non. Pas de grains, pas de rien.
Fait que c'est quoi là, ton alimentation à peu près?
De la viande, des légumes. Un peu de fruits. Tu sais, une mangue va me durer une semaine quand je m'en achète.
Okay.
Une petite mangue, là, tu sais, une petite les mangue jaune, là. Là, j'en ai trouvé une cette semaine, là, fait que je prends une petite tranche tous les jours, puis je mets ça sur ce que je veux, là.
Puis ça te convient.
Bon, oui, puis je peux être 5 jours sans manger de fruits, là. Tu sais, c'est pas un
puis
problème.
T'as pas d'envie.
Non, parce que je l'ai coupé. Ouais. Des fois, j'ai des rages, mais moi, j'ai plus des rages de patates frites.
Ouais,
quand j'étais petite, c'est ça que je mangeais comme gâterie.
Mm-hmm.
Parce qu'on avait une voisine qui nous donnait du change pour aller faire ses commissions, puis dépanneur, il y en avait des patates frites.
Ouais, ouais, ouais.
C'était ça mon
l'association
snack.
Qui s'est faite.
C'est ça. Mm-hmm. Fait que, tu sais, je vais en manger une fois par 3 semaines à peu près, 5-6 frites, là, parce qu'on va au resto, puis mon chum, il y en a dans son assiette, puis je fais comme.
Fait que ton chum n'a pas le même régime que toi.
Non, non, pas du tout.
OK.
Non, mais on mange le même repas. T'as dit, moi, je vais manger, par exemple, hier, on a mangé. Grosse boulette de viande hachée avec du fromage dedans. Là, c'est le temps des asperges. J'ai coupé des asperges dans mon assiette parce que j'en ai dans mon jardin. Puis, une petite mini-salade, là, salade tomate, parce que je vais acheter ça cette semaine. Puis lui, ben, il y avait des patates, en plus.
OK, OK.
C'est juste sur la différence, tu sais.
Ben, donc, est-ce que vous faites pousser vos tomates? Vos patates, excuse?
Là, moins, parce que j'en mange plus.
C'est ça.
Fait que je vais faire 5-6 plants de patates, parce que pendant l'été, ils trouvent ça le fun d'en avoir.
Ouais, mais ouais.
Je sais même pas si j'ai de la place cette année dans mon jardin, là. Fait que
s'il y en a pas, il y en a pas. Au menu.
non, regarde, on va en acheter s'il y en a pas, là. C'est pas grave.
Ouais. OK. Donc, comment ça fonctionne maintenant? J'aimerais qu'on parle du jardinage un peu, parce que je pense que pour bien des gens, première étape vers l'autosuffisance, en tout cas, ce serait, on essaie de faire pousser nos affaires nous-mêmes.
Ouais.
Moi, ça fait... Depuis que je suis petite, mes parents font un potager. Puis quand on a déménagé à Montréal avec ma mère, ma soeur et moi, on avait un jardin communautaire à Montréal.
Mm-hmm.
Puis je me suis rendu compte que c'était pas si simple que ça, faire pousser des légumes. Puis là, quand je suis partie en appart sur mon jardin... J'avais une terrasse à Montréal, là, j'avais pas un terrain. Fait que là, j'ai essayé d'avoir des pots. Puis là, j'ai toujours essayé de faire pousser mes maudites tomates. Ça commence à être vraiment une espèce de classique là, que Hélo n'est pas capable de faire pousser ses tomates parce que vraiment, ça a l'air facile, là, mais c'est pas si facile que ça. Puis là, mon chum a décidé d'embarquer avec moi dans le projet cette année de faire pousser nos tomates. Puis moi, pour vrai, là, je peux pas faire ça toute seule. On a 2 enfants en bas âge, j'oublie tout le temps d'arroser le jardin, je désherbe pas maman quand elle vient, c'est elle qui désherbe. Puis là, bon, mon chum s'est impliqué, fait que je me dis, on va peut-être s'en sortir, mais Pour moi, déjà, on dirait qu'à cause de ça, je me dis, c'est pas réaliste parce que je vois vraiment, je suis même pas capable de me faire pousser un basilic sans l'échapper avant la fin de l'été. Puis, fait, c'est quoi qui est réaliste, quelqu'un qui veut s'attaquer à ça? Comment tu dirais, comment prendre ce projet-là sans que ce soit une montagne? Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant, en anglais, sur YouTube et X.
Faut voir, tu sais, des fois, je vois des gens qui disent « Qu'est-ce que je fais pousser? » Je dis « Qu'est-ce que tu manges? »
Ouais, c'est ça.
C'est ça qu'il faut penser.
Ouais.
Après, ben, faut commencer petit, puis moi, je dis toujours, si vous voulez vous commencer un jardin à partir de zéro dans pelouse, mettez une toile en plastique, puis couvrez ça de feuilles mortes, de bûches ou de briques pour un an, que ça meure en dessous.
Mm.
Vous allez avoir toute la matière organique de votre gazon qui va nourrir le sol.
Mm.
Puis après, t'as pas à te taper à job de tout enlever, là, les mauvaises herbes. Il va en avoir qui va arriver.
Ça veut dire qu'une fois que ça s'est fait, là, tu te sers de ton compost qui a commencé, ouais, le gazon qui a commencé à se défaire, puis là, tu remues la terre.
Il est défait, là, c'est de la terre noire. Là.
Ah ouais?
C'est complètement décomposé.
Ah ouais,
mais il, okay, faut que ça aille passer tout l'été à se décomposer. Si tu, ouais, fais ça au mois d'août, ben, il faudra t'attendre l'autre été d'après.
Il faut déjà que tu planifies, dans le fond, une saison,
ouais,
d'avance.
Ouais. Sinon, il faut que tu détournes. Tu t'enlèves, ouais, tout, puis tu pars à zéro. Puis, oui, on peut acheter de la terre. Mm-hmm. Ça dépend des régions où est-ce qu'on est. Mais est-il là, la terre, là? Et c'est de la terre, plutôt,
souvent,
la terre?
Souvent, la terre est pauvre.
Mais c'est ça. Ça dépend comment, où ce que tu es, parce, ouais, que des fois, les gens ont des très petits terrains, puis ça a tout été renfloué avec de la terre de remplissage, que c'est,
uh-huh,
comme...
ouais.
Du sable ou de la garnotte, là.
Ou nous autres, c'est très glaiseux, ici.
Ouais, ça, c'est pas facile. Bon, ben, ouais, dans ce temps-là, on va s'acheter un peu de terre pour mélanger avec. Du compost, surtout. Mm-hmm. C'est ça, ça va apporter de la matière organique, puis ça amène une structure au sol, toute la matière organique. Faut pas en mettre une tonne, c'est une construction d'année en année, tu sais. Mais ça se fait cultiver dans l'argile, sauf qu'on va cultiver en hauteur, c'est-à-dire on va faire des buttes, mmh, comme ça, pour que l'eau s'égoutte bien.
Mmh.
Puis ça garde l'eau facilement, fait que même s'il y a une sécheresse l'été, ça devrait,
ouais,
rester assez humide.
Oui, le sol est très humide.
Oui, fait que c'est sûr que si tu plantes ton plant de tomate, tu lui fais comme une collerette, une petite couronne autour pour accumuler l'eau,
ouais,
un peu, parce que sinon ça va.
Mais dans le fond, c'est une butte,
puis une petite dépression.
OK, je comprends.
C'est ça. Puis, si tu veux pas désherber, ben là, il faut que tu trouves quelque chose à mettre comme paillis, comme on
c'est
dit.
Ça.
Puis ça, c'est pas évident parce qu'ils vendent des trucs au magasin avec des, ouais, colorants dedans, puis tout. Non, ça va pas dans un jardin, ça.
Ouais,
okay?
Ouais.
Nous, on a la chance, des fois, comme là, l'année passée, on a coupé plein d'arbres, plein de branches qui étaient dans les chemins, puis tout ça. On a loué une chipeuse,
ah, ben
puis,
oui,
là, on s'est fait du bois raméal fragmenté, du BRF. Bien là, c'est ça qui est dans mon jardin cette année.
Okay.
Des fois, je vais aller chercher une balle de foin chez un voisin, que lui,
ouais,
c'est du vieux foin de 3 ans. Il n'en a pas besoin, il ne peut pas donner ça à ses vaches. Moi,
mm-hmm,
j'y achète pas cher. J'amène ça chez nous, je mets ça à terre. C'est sûr que je me retrouve avec des grains de ces plantes-là. Là.
Ouais.
Ça se peut qu'ils en sortent au travers. Là.
Ouais.
Tu sais, c'est pas zéro désherbage. Là.
Mais c'est déjà moins pire.
C'est moins pire,
mm-hmm,
c'est ça. Puis le fait de mettre un paillis, ça garde l'humidité au sol. Fait que tu n'as pas besoin d'arroser de l'été quasiment.
Pas vrai?
Oui. Tu as le soleil qui vient brûler. Hey, va rester au soleil à 32 degrés pendant 3 heures, 4 heures, tu vas mourir. Là,
ben, normal, en tout cas.
En tout cas, il va faire chaud en bébite.
Ouais.
Fait qu'un sol qui est brûlé comme ça, toute la surface, la microbiologie est pas mal maganée. Tu sais, tous tes micro-organismes, c'est trop chaud.
Ouais.
Fait que, puis quand il pleut, si tu as du paillis, tu n'auras pas d'érosion de sol parce que ta pluie, elle n'arrive pas, puis elle brise ta structure de sol. Fait que tu vas garder ton eau, tu vas empêcher l'évaporation, puis tu vas avoir une meilleure microbiologie dans ton sol, tu sais.
OK, fait qu'il y a beaucoup d'avantages à,
ouais,
rajouter.
Tu tonds ton gazon, va mettre ta petite couche de pelouse sur ton jardin, tu sais.
Ah oui?
C'est sûr que si ton gazon est plein de pissenlits en graines, c'est pas une bonne idée, là, parce que là, tu
vois, bonjour les pissenlits, oui. Ouais,
tu,
ouais,
vas en avoir partout dans ton jardin. Mais tu sais, il y a des moments dans l'été où il y en a pas.
Mm.
Bon, ben tu prends ça, tu fais une petite couche, pas ça d'épais, ça pourrit sinon,
t'sais. Une petite couche, genre 1 cm.
Ouais, genre, tu mets ça, l'automne, tout le monde pitche leurs feuilles mortes,
ouais,
ailleurs. Crème, garde-les, puis mets-les. C'est sûr que nous, notre difficulté avec les feuilles mortes, c'est qu'ils ventent chez nous. On est dans une terre.
Ah ouais.
Écoute, ça s'en va tout
sur, ouais, le coin, ouais, de la clôture. L'avantage du bois, c'est que ça reste vraiment,
ouais,
au sol.
Les feuilles mortes, il faudrait comme passer à tondeuse dessus, puis les mettre,
ouais,
après, ou mettre ça dans un bac, puis passer la... Tu sais, le fouet, là, qu'on,
ouais,
passe,
ouais,
tu le passes dans le bac, puis tu défais tes feuilles. Fait que,
ouais,
là, ils partent pas au vent, tu sais.
Ouais, c'est
sont
ça,
plus
ils vont être moins volages.
Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est une façon de gérer l'eau. parce que c'est pas logique. On n'a pas besoin d'arroser un jardin tout le temps.
Ben, c'est ça, parce que j'ai déjà vu des techniques de monde qui font pousser leurs tomates. La fille a fait une obsession avec les tomates, mais en les arrosant pas. Puis là, ouais, je me dis, attends un peu, là, moi, je me suis fait dit que c'est parce que j'ai pas arrosé une journée sur deux que mes tomates moisissent sur, t'sais, pourrissent sur la vigne. Tu sais, là, je suis comme, attends un peu, là.
Il y a tellement de maladies, les tomates, là.
Ah, pour vrai?
C'est compliqué, là, ouais.
OK, fait que je suis pas si anormale que ça.
Non, ben, c'est-à-dire qu'il y a des maladies qui sont prévisibles. Par exemple, quelqu'un qui sème trop tôt, parce que le sol doit être au moins 18 degrés Celsius. Oh, fait que okay, moi, j'ai un thermomètre, je le plante dedans, puis je check. Ouais? Tu sais, un thermomètre à barbecue, n'importe quoi, là. Mm-hmm. Tu plantes ça dans le sol, tu sais, à 18, oui, OK.
Mais bon, la nuit, il va baisser?
Non, mais le sol, non.
Fait que tu plantes assez creux pour avoir une idée de...
Creux, ça d'épais, c'est correct, là.
Ça bouge pas tant que ça?
Non. Okay. Pas pour une nuit de gel, là. Je veux dire, ça traverse pas de même, là.
OK.
Fait que quand le sol est rendu à 18, là, les légumes de chaleur, tout ce qui est cocombe, tomate, piment, courge, tout ça, là, ça, mm-hmm, ça peut être sorti. Moi, là, je sors ça, là. Cette semaine, ça va tout être planté.
OK.
Parce que je sais qu'il y aura pas des moins 10 qui s'en viennent.
J'ai pas l'intention de sortir l'entrevue cette semaine, fait que pour ceux qui... On parle du 22, 24, 25 mai, à peu près. Donc, ouais, avant la fin du mois de mai, t'es déjà planté.
On a jusqu'au 12 juin à faire ça, facile, là.
Ouais.
C'est pas un trouble, là.
OK.
Donc, mais c'est juste que cette année, il fait chaud de bonne heure.
Ouais,
fait
vraiment
qu'on en profite, on suit la température. Moi, je regarde les nuits qui s'en viennent, annoncent pas de moins 10, fait que je sème.
Okay.
Je plante toutes.
Toi, en ce moment, tu pars en graines?
Pas les tomates. Les tomates...
Toi, t'as fait des semis.
J'ai fait des semis, je les avais dans la maison. Les cocombes, ça peut être planté en graines, absolument.
Déjà là, là?
Oui.
OK.
Voyons, toutes les salades, les pois, moi, ça fait un mois que c'est planté.
Les radis,
Ouais, c'est planté depuis un mois, presque. Okay. Mes pois sont rendus haut de même. Ça peut être semé quand il fait 5 dehors.
Pour vrai?
Ouais. Okay. Fait que c'est pas un jardin, c'est pas quelque chose qu'on fait, tu sais, une semaine, on fait tout, là. Je veux dire, il y a des choses qui peuvent se planter très tôt au printemps, on en profite, on le fait.
Ouais.
Puis mes carottes, je m'étais dit, j'ai-tu le temps de les planter cette semaine? Je me dis, garde, je vais pas les planter. J'en plante pas beaucoup parce que j'en mange presque plus, mais j'ai dit, à la place, je vais planter d'autres légumes, puis en juin, fin juillet, je vais planter mes carottes.
Ah ouais,
tant
comme
avoir, ça? Je vais en avoir cet automne, tu sais.
Okay.
Fait que c'est juste parce que j'ai pas besoin d'en avoir pendant l'été nécessairement. Si j'en veux pendant l'été, il faudrait que j'y plante là.
Puis ça te libère de l'espace aussi.
Ouais, c'est une rotation. C'est ça. Comme là, c'est mon ail qui va sortir fin juillet, c'est les carottes qui vont aller à sa place, tu sais.
En fait, c'est tu fais un calendrier?
Bien, j'ai dans ma tête. Là.
OK. C'est quand même... Il y a de la logistique derrière tout ça.
Bien, c'est pas obligé, là. Ouais. C'est juste que moi, j'ai pas besoin de légumes tant que ça, là, Fait que je me dis, ça, je n'ai pas besoin tout de suite, je vais attendre plus tard, tu sais, puis je les ferai plus tard. Fait qu'il faut vraiment regarder. Tu sais, je vois des gens aussi qui disent, je vais planter du... Mettons du panais, on va dire, OK? Du panais. Bon. Tu manges tout ça dans ta vie pour vrai?
Il y a quasiment personne qui mange du panais.
Pourquoi tu veux pousser ça?
C'est juste, c'est chic de dire que t'as fait pousser du panais, je sais pas.
Mais j'ai vu tellement de monde qui font pousser des affaires.
Qui n'ont jamais mangé de
l'enfant. Ils laissent pourrir dans le jardin parce qu'ils savent pas quoi faire
comme
avec.
Du kale, là.
Ou
C'est ça.
Tu mangeais-tu du kale, là? Hey, oui, ça n'en donne. Puis tu sais, quand tu récoltes du kale, t'enlèves juste les feuilles. Puis il continue de pousser, là.
C'est dans l'infini.
Fait que il y a plein de trucs comme ça, le basilic, par exemple. Tu fais un plant, coupe les têtes rapidement.
Quand tu commences à monter en fleurs, là.
Non. Avant ça, c'est un petit de même, là. Puis là, tu coupes les têtes. Fait que c'est comme un cèdre que tu tailles, il se ramifie.
Mm-hmm.
Fait que là, toutes les têtes que tu as coupées, tu vas avoir un bosquet de basilic gros de même, là.
Fait que quand tu cueille ton basilic, tu le trimes, j'imagine, mais mettons que tu vas aller chercher tes feuilles, tu le fais-tu en faisant ça quand tu t'en prends pour le manger?
Oui, mais en même temps, quand on enlève les bouts, c'est tout petit ce qu'on enlève, on peut le manger, mais c'est gros.
C'est minuscule,
C'est plus que c'est pour permettre qu'il se ramifie, pour que un plant te donne l'équivalent de 6 plants.
Okay.
Puis moi, je fais 3 récoltes par année, là. C'est-à-dire que quand il commence à être beau, j'arrache toutes les feuilles.
Ah ouais?
Je laisse le plant là, mais j'enlève toutes les feuilles.
Puis il va se refaire?
Là, je me fais un pesto, je le congèle, puis il refait des nouvelles feuilles, en double.
Ah, wow!
Parce que là, tu viens d'enlever une feuille, il en sort deux.
Mon Dieu, le potentiel qui s'ouvre à moi.
Ouais. Après, je récolte encore, puis il recommence. Après ça, rendu au 12 septembre, nous autres, ça gèle.
Ils ont donné.
Là, c'est rendu plus tard, là, un peu peut-être 20 septembre. Et là, quand je sais qu'il annonce un gel au sol, là je récolte tout.
Ouais.
Puis je fais une dernière batch.
Tu fais ton pesto.
Ouais. Wow. Fait que moi, je congèle mes pestos au fur et à mesure que je les fais. Puis je fais des pots prêtes, là, d'avance. Puis ils sont prêts pour l'hiver, tu sais.
Mais c'est beaucoup d'apprentissage. T'as appris ça tout sur le tas, toi? Parce que à l'école, c'est le fromage, j'imagine.
Oui, je l'ai appris sur le tas, mais j'ai quand même écouté du monde parler, puis des amis qui ont eu des trucs, puis, tu sais, fait que j'ai appliqué ces affaires-là. Mais tu sais, au début, là, il y a 30 ans, là, que j'entendais, « Ah, le compagnonnage dans le jardin, il ne faut pas que tu mettes ça avec ça, puis ça,
maintenant, tout le monde fait ça.
À Gabin, là. Colin, compliquez-vous pas la vie de même. Mm. Oui, il y a des choses que c'est pas une bonne idée ensemble. Tu sais, par exemple, moi, je me suis toujours fait dire les fèves, les petites fèves vertes, tu mets pas ça à côté des oignons. Okay. Je sais plus c'est qu'est-ce qui, dé...
la logique
qui dérange quoi, là. Okay. Mais mettons, on va mettre les oignons avec les carottes parce que l'odeur des oignons empêche la venue des mouches de carottes, puis l'inverse.
OK, OK.
Mais ça arrivait bien souvent que c'était pas à côté de l'autre, non?
Ouais, ouais, ouais.
OK. Puis là, ben, on est pire qu'avant, c'est qu'on a plein d'insectes que j'avais pas avant. Là, c'est devenu... tout un
c'est affaire. Un fléau quand même.
Ah ouais, j'ai perdu des récoltes complètes.
Scarabées japonais.
Ouais,
puis...
Oui, vous autres, vous devez avoir ça
ah,
aussi.
C'est mon
moi, je n'ai pas ici.
Ouais, ouais.
Moi, je n'ai pas.
Non! Ah, parce que ma mère, elle habite à Nicolette, qui n'est pas si
ouais,
loin.
Il y en a à Warwick, il y en a. Oui, moi, j'en ai pas.
Mais comment c'est qu'ils ne sont pas rendus jusqu'à chez vous?
Je ne sais pas.
C'est bizarre.
Parce que ma voisine, ma deuxième voisine, elle avait-tu commencé à en avoir? Elle avait du scarabée, un autre sort de scarabée, que je me... du rosier. Je pense que je ne me trompe pas, là. Je suis même pas sûre.
Il est quelle couleur, lui?
C'est un petit beige.
OK.
OK, mais ça, c'est l'enfer. J'en ai vu dans mon champ. Je l'ai vu une fois sur un arbre chez nous. Tous les matins, j'allais ramasser. Je n'ai pas eu encore.
OK.
Je n'ai pas eu d'autres. Okay. Mais j'ai d'autres bébites bien pires que ça, là.
OK.
Fait que, ben la cécidomie du chou, c'est un insecte qui vient pondre. Quand ton chou commence à pousser, il y a une tête qui commence à pousser. Bon, bien, que ce soit les choux, les brocolis, les choux-fleurs, cette petite bébête-là qui mesure 1 mm, elle vient pondre là-dedans, au bout, puis là, le plant, les œufs se développent, le plant devient borgne, qu'on dit. Le plant fait ça.
Rabougri.
Tout rabougri. Puis là, ben le plant veut vivre, fait que là, il sort des nouvelles tiges chaque côté, puis là, la bébête, elle va les pondre sur chacun. Fait que t'as jamais rien.
Elle te ruine
Fait qu'il faut mettre tellement des toiles par-dessus tellement plein de légumes dans le jardin. Là, on achète des toiles, on fait des arceaux,
pour les
des
toiles de
pour
venir.
Les empêcher d'atteindre le plant. Fait que ça devient plate, puis là, on a un nouvel insecte qui vient d'arriver. Il est pas nouveau, il existe ailleurs, mais je n'avais pas chez nous.
C'est quoi?
C'est le... comment que ça s'appelle? Ça vient dans les cocombes, c'est un...
Ah oui,
c'est rouge, là.
J'en ai plein, ici.
Ça te fait des vers gros de même dans la tige,
là. C'est peut-être pas le même d'abord, mais j'en ai des petits rouges, là, puis qui me bouffent. Mais ma mère, elle m'a parlé d'un problème avec les concombres. C'est pour ça qu'on avait même pas d'en planter à Montréal, parce qu'il y avait cette bibite-là qui était vraiment un fléau, puis on voulait pas, fait que...
Mm-hmm.
Pas de courge, pas de concombre, à cause de... Puis c'est ça aussi, tu sais, que j'expliquais à mon chum, parce que j'étais... Tu l'as jamais fait. Moi, mes parents ont toujours fait pousser un potager. Fait, j'ai vu les problèmes, puis ça n'a pas l'air si compliqué que ça, mais peut-être parce que j'étais petite. Mais puis là, je vois les fléaux qui débarquent, les nouvelles bébites, le vert blanc. Puis là, on essaie d'être bio, tu sais. Le but de faire pousser ces légumes, t'as pas envie de bombarder de pesticides.
Mm-hmm.
Fait que là, c'est comme, comment tu t'en débarrasses?
Ben écoute, moi, là, j'ai eu le sphinx de la tomate et le sphinx du tabac qui...
C'est beau comme nom,
vraiment. Oui. Ça aussi, ça vous fait des beaux verres. Ça bouffe les plants, là. Les tomates. Là, le monde, ils disent, oh, mais déplace-les. Voyons donc, oui. C'est un mauvais insecte, là. Je veux dire, il vient pas du Québec.
Non,
là.
Non, c'est ça.
OK. Ça fait que là, arrête
total,
le rêve, là. Je veux dire, oui, mais va leur donner un plan ailleurs. Non, non, non.
Oui, il y a un peu cette mentalité-là, des fois, c'est un peu bouddhiste.
Arrête, là. Oui, c'est à un moment donné, là, c'est parce que tu penses-tu que les légumes que tu manges à l'épicerie, ils n'ont pas fait quelque chose pour pas que ça arrive,
mais
là?
Oui, c'est sûr.
Bon, ça va être biologique, là. Je veux dire, il y a des traitements qui existent pour le bio, là.
Ouais.
Sauf que ce Moses d'insecte-là, j'essaie de le ramasser au fur et à mesure. Les chenilles, ils sont grosses de même. C'est pas des jokes, là. Fait que ça bouffe la feuille.
Ouais.
Tu le regardes pas ton plein de journée, il n'y a plus de feuilles.
Ah, c'est vraiment fou de même.
Ah oui, c'est fou, là.
Ouais.
Fait que faut les trouver, puis il faut les enlever, puis des fois, ils rentrent dans la tomate, ils bouffent la moitié de la tomate. Ben, elle se conservera pas, cette tomate-là.
Non,
là.
Non, c'est okay. Si tu n'as pas envie de la manger non plus. Non.
Ben, moi, je peux être du style
à
la
couper, t'es de même, là. Okay.
Ouais. Mais je suis juste. On a tellement de tomates. L'été, quand c'est le temps des tomates, ça nous sort par les oreilles. Mais tout ça fait que je suis quasiment contente de ne plus manger tant de légumes que ça. Fait que je me bats pas trop avec ça.
Je n'ai pas.
Si tu veux, je te dise.
Ouais.
Au pire, je vais en acheter, tu sais.
Mais mettons, ce serait quoi les... Ben, j'imagine que... Bon, je ne vais pas aller dans les micro-détails, mais c'est parce que ça m'intéresse, parce qu'on est en train de se lancer dans le défi, puis je suis sûre que je ne suis pas la seule. Il y a sûrement des pesticides naturels? Y a-tu des...
Pour certains insectes, il n'y en a pas.
Non,
ou ils sont accessibles juste pour les agriculteurs de gros volumes, tu sais.
Ils ne vendent pas en petite quantité.
Non, il y en a que oui, tu sais, comme le BT, le Bacillus thuringiensis, Ça s'achète au Canadian Tire. Oui,
c'est
là,
ça.
OK? Parce que ça, c'est pour le papillon, beau petit papillon blanc, l'été, avec deux petits points noirs, là.
Mm-hmm.
C'est beau, hein?
Mm-hmm. Il n'est pas gentil?
Non, lui, il vient pondre ses œufs sur les choux. Ah. Fait que là, c'est ça, les petits verres, les verres verts, là, les chenilles vertes que vous voyez, avec les beaux gros paquets de caca verts, là, que vous voyez, là, c'est ça qui fait ça, OK? Bien, ça, c'est facile à éliminer. Tu sprays avec du BT. Le BT, c'est une bactérie, Bacillus thuringiensis. Quand... T'as ça sur le feuillage, la bibitte bouffe le feuillage et ça détruit son système digestif, elle meurt. Bon, fait que c'est facile à gérer, mais moi, je mets une toile, comme ça, je ne veux pas gérer rien.
Mais si l'insecte est rentré dans ta toile...
Il ne rentre pas, c'est un papillon, là. Faut qu'elle soit mauditement
mal fermée. Mais mettons les autres bibittes, là.
Oui, mais il y a des bibittes que, comme ma petite de 1 mm, ben, ça prend des toiles avec des trous ultra fins, puis tout bien fermé tout le tour.
T'sais. Puis après, ben là, ça doit complexifier un peu ton arrosage. Mais toi, est-ce que t'arroses?
J'arrose pas. Non, mais tu arroses par-dessus ça, ça passe au travers. Quand il pleut, ça passe au travers. Là.
Ça, tu disais que t'arroses pas. Fait que si on en revient à cette histoire-là, tu disais que c'est pas vraiment si nécessaire que ça d'arroser. Si t'as bien protégé ton sol puis qu'il peut garder son humidité, finalement, arroser, c'est un...
Ben on arrose au début quand on vient de planter. Tu sais, moi, j'ai planté hier, il faisait 30. Là. Ouais, s'entends-tu que si t'arroses pas, ça va pas reprendre un plant?
Oui, c'est parce qu'il faut qu'il fasse ses racines.
Ben oui, c'est ça. Fait qu'au début, la germination ou la transplantation, on arrose un peu.
Ouais.
Mais après, il faut que ce soit maudit. Genre, il faut que ça fasse une semaine et demie, deux semaines qu'il n'y a pas mouillé facile, moi, pour que je commence à me dire je vais peut-être arroser.
Ah t'sais. Ouais?
Ouais. Puis sinon...
Tu n'as pas des problèmes de récolte dus à ça, là?
Ben non.
OK.
Non.
Okay.
Mais tu sais, comme je disais, les tomates, si tu les sèmes trop tôt, quand une tomate est installé dans le sol trop tôt, quand il fait trop froid, le sol n'est pas capable de libérer son calcium. Fait que la plante n'est pas capable de siphonner le calcium.
Mm.
Donc, ça fait faire un manque de calcium dans la tomate et on va avoir le cul noir, je pense le nom. La pourriture apicale, en fait. C'est que le bas, il est tout noir, puis il pourrit.
Ouais.
Mais ça, c'est juste les premières tomates, celles qui ont commencé à pousser quand il n'y avait pas de calcium de disponible. À partir du moment qu'il va faire assez chaud, le calcium va être disponible, puis là, les autres tomates vont être correctes.
Ah, OK.
Fait que ça, on appelle ça des carences induites. C'est-à-dire, c'est pas une carence en calcium, ton sol n'est pas en carence, mais parce qu'il fait froid, il est pas capable, ton plant n'est pas capable d'absorber.
Okay.
Fait que c'est induit, c'est pas direct le manque.
Je comprends.
Donc, il y a des petites affaires comme ça, tu fais comme, bon, j'ai deux tomates qui sont pas belles,
c'est pas,
pas
monde,
grave, là.
Ouais.
Le reste devrait être correct. Mais l'année passée, nous, vous, je sais pas c'est quoi votre région, mais il y a mouillé, là.
Ah oui, c'était l'enfer.
On a tout perdu, là.
Ah ouais, c'était terrible.
Les tomates étaient belles, les plants, tu voyais toutes les plants, les tomates étaient vertes, puis là, tu disais, waouh, on va avoir de la récolte.
Ça va y aller.
Une semaine, mildiou à grandeur, tout perdu.
Mildiou qui est un champignon.
Oui, parce qu'il est trop mouillé, puis il a trop fait froid.
Non, c'était vraiment un été terrible qu'on a eu.
Ceux qui ont réussi à avoir des choses, il y avait des serres, puis ils pouvaient gérer l'arrosage.
Toi, t'as pas de serre?
Non, je ne veux pas avoir de serre.
Non, tu t'embarques pas dans ce projet.
Bon, non. J'ai déjà pensé, parce que tu sais, je voyais mon amie qui en a. Ben, elle reste dans une région plus froide, elle a des montagnes.
Okay.
Si elle n'a pas ça, elle peut pas avoir de tomates.
Ah, carrément. Même l'été?
Oui, c'est parce qu'il s'agèle au mois d'août.
Ah, mon Dieu!
Là, gèle au mois d'août, oublie ça. T'es en train de mûrir, puis tout gèle. T'sais.
Alors que toi, t'as pas ce problème.
Moi, j'ai pas ça. Mais si je pourrais planter plus tôt dans mon jardin. Mais tu sais, là, depuis que je suis en alimentation faible en glucides, où est-ce que je mange vraiment beaucoup moins de légumes, j'ai fait... Puis mes enfants sont plus là.
Ouais, c'est ça. T'as pas les mêmes enjeux.
Non. Ça aussi, les gens, ils pensent qu'ils ont besoin des serres. Ils pensent qu'ils ont besoin... Ouais. T'as pas besoin d'être ça, là. Tes parents, avaient-tu des serres?
Non.
Pas bien.
Fait que, non, mais il y avait, tu sais, les patates qui stockaient l'hiver, ou là, toi, tu dis que tu manges plus de ça. Fait que, tu sais...
Ça simplifie un jardin, m'a dit, de ne pas trop manger de légumes. Puis de ne pas se sentir coupable de le faire. Parce qu'on se fait tellement dire que c'est obligatoire, absolument.
Moi, c'est inconcevable de ne pas avoir mon petit légume dans mon assiette.
C'est ça. Moi, je peux très bien faire un repas qui n'a pas de légumes dans ma vie. Mais j'aime avoir des fois 3-4 petits morceaux de cocombe. Tu sais, ça va être juste ça. Ou une petite salade, là, grosso même. Là,
c'est comme de repenser finalement totalement notre façon de se nourrir, mais aussi c'est qu'on a été vraiment très endoctriné d'une certaine façon.
Oui, c'est ça. Tu sais, moi j'ai ma viande, fait que c'est ça ma protéine, puis c'est ça qui est le plus nutritif. Tu sais, je me rapporte toujours aux Amérindiens. Mm-hmm. Ou n'importe quel peuple indigène.
Non, c'est vrai qu'il n'y avait pas des grosses salades.
Ben non, puis j'ai une amie qui est allée, elle a voyagé en Thaïlande, là, ces places-là, là, le Vietnam et tout ça, puis elle vivait dans les familles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Elle n'était pas juste une touriste, là.
Okay.
Elle allait vivre chez les gens. Elle dit, il n'y a pas un peuple que j'ai vu qui était végétarien. Là.
Pour vrai? Pourtant, en Thaïlande, c'est assez...
Ben, elle dit, ils mangeaient du porc. Beaucoup, les porcs se promènent partout.
Ouais.
Il y avait du chien, des fois du rat.
Ouais.
Puis, elle dit, les légumes qu'ils mangeaient, là, la seule affaire que je les voyais manger, il y avait une plante, je ne sais pas comment elle s'appelle, elle faisait des... C'était comme une genre de vigne, on dirait, là. Puis il y avait des feuilles, elle dit, prenez ça, il les faisait cuire, jamais cru. Il n'y a pas aucun légume qui mangeait cru. De ce que moi, elle dit, moi, où j'étais, là, personne ne mangeait de légumes
crus.
C'est
ça, il n'y a rien de cru.
Tout est cuit, puis c'était rien que ces feuilles-là. Il n'y avait pas grand-chose d'autre en termes de légumes. Puis vous êtes en super santé, là.
Ah oui, c'est ça.
Fait que moi, je me rapporte aussi, tu sais, au temps des Amérindiens. OK, quand c'était le temps des quenouilles, là, c'est le temps des quenouilles bientôt, bien, ils en mangeaient. Mais ils ne stockaient pas ça, là. Ouais, tu sais, je veux dire, l'hiver, c'était de la viande.
La nature tough, puis
oui,
ça
c'est ça. Déjà, de revenir au saisonnier, ça ferait qu'on se sent moins obligé de tout avoir. On a peur de manquer.
Ah oui, oui, je pense que oui. Moi, je
puis c'est pour ça que pour moi, l'autonomie, c'est comme... Tu gardes la bouffe principale, puis juste de te faire ça, c'est assez, tu sais. Je veux dire, t'as fait tes trois repas, t'as pas besoin de collation si tu manges comme du monde. Si tu manges assez dans tes repas, t'as pas besoin de collation. Parce que t'auras pas faim jusqu'au prochain repas. Moi, j'ai pas faim avant 5 heures à peu près, entre chacun de mes repas.
T'étais-tu de même avant?
Non.
Non?
Non. Ben non, je mangeais pas assez de protéines.
Ah, c'est ça.
Des céréales le matin, hein? Non, ça nourrit pas son homme, comme on dit, là.
Non. Sa femme non plus.
C'est sûr que tu vas avoir faim 1h30, 2h après, là.
Oui, 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 c'est clair.
Puis tu vas manger quoi?
Du sucre.
Exact. Quand tu en manges plus de sucre, tu manges des vraies affaires qui nourrissent, puis t'as pas faim 5 heures après. Fait que, avant 5 heures après. Fait que, là, tu réalises que t'as pas... Ben oui, t'as pas besoin de toutes ces affaires-là. T'as bien beau te dire « Ah oui, mais moi, je fais mes muffins, moi, je fais mes biscuits. » Quand tu réalises que tu n'as plus besoin, là, tu fais comme « Hey, viens-tu me sauver de l'ouvrage, moi, là? »
Ouais, ouais, c'est clair.
Oui, on peut les acheter à l'épicerie, mais moi, j'ai même plus besoin d'en faire.
Ouais.
C'est même merveilleux.
Ouais, ouais. Puis t'en as pas vraiment... T'as pas des cravings, comme tu disais tantôt, fait que...
Non, le seul craving que j'ai, c'est les noix. Fait que moi, j'achète des noix de macadam, parce que c'est les noix les moins glucidiques, là. Il y a moins de glucides dedans. Puis, j'essaie de faire des temps où j'en mange pas mon pantoute, parce que c'est vraiment ma petite bête noire, là. C'est sûr qu'il y a ça dans l'armoire, là.
Attends, ça fatigue. Ah oui, je comprends.
Puis c'est correct, c'est une bonne nourriture, là, mais tu sais, c'est juste que... Tu sais, quand je te dis, moi, l'addiction, là, c'est quelque chose que j'ai essayé de toujours un peu courir après ça, voir où... C'est un peu la psychologie humaine, là, de dire « Hey, on est drogué en temps! »
Ouais, puis ça, c'est quelque chose qu'on a été confronté avec nos enfants, parce que c'était plus facile quand on avait juste un, là, notre fille. La première, on a attendu très longtemps avant d'introduire le sucre. Puis tu sais, même encore à ce jour, elle mange pas de bonbons, elle mange pas vraiment de dessert, mais ces desserts, c'est des dates où, tu sais, ça reste quand même pas des affaires complètement farfelues, là, tu sais, c'est pas des bonbons puis des sucettes, mais c'est difficile parce que ça confronte les gens qui veulent donner ça à nos enfants, puis là, des fois, on est comme, ben non, on donne pas de sucre, et ben ouais, ça, puis torturer ton enfant, ben là, c'est un enfant, il va bien manger du sucre, mais là, mais quel genre de parent que vous êtes?
Ramène-les dans leur temps à eux s'il y avait ça.
Ben, c'est ça, c'est qu'on doit comme tenir notre posture, puis ça, des fois, c'est comme difficile, puis là, je me dis, je veux pas non plus que mes enfants se retrouvent à tomber dedans quand ils vont aller chez des amis, c'est parce clair. Que ça va être leur gif. On s'est dit, on va y aller dans le juste milieu, quand même qu'elles puissent, une fois de temps en temps, se permettre de manger une petite gâterie, mais que ce soit exceptionnel.
Oui, puis qu'ils comprennent, faut éduquer l'enfant que si tu es en santé comme ça, mon tipit, là, c'est pas pour rien.
Ouais, c'est ça.
Fait que... Essaye de te souvenir que tous tes mouvements... Parce qu'il y a des enfants qui sont rendus diabétiques de type 2 à 10 ans, là.
Ouais, ça,
8 ans, 3 ans, là. C'est pas drôle,
puis, là. Tu t'en vois qu'ils ont 4 ans, ils ont l'air déjà en surpoids, là. C'est, oui. C'est spécial.
Le foie gras non alcoolique, là.
Oh, oui.
Hey, il y a des greffes à 13 ans, là. Arrête,
au Canada,
là. Moi, j'entends beaucoup des gens des États-Unis. Ah non, mais pense pas qu'on est meilleur au Canada.
Moi, j'aime ça, j'aime mieux faire à croire que...
Ouais, c'est ça. Puis des fois, on pense que les États-Unis sont les pires, mais en Chine, ils sont rendus encore pires
qu'aux États-Unis. Ah, ils sont dodus, là, les
Chinois. C'est ça. Donc, moi, je suis pas dans grossophobie, là. Pour moi, c'est tout le mécanisme...
Non, pauvre toi, t'es obligé de le dire, tu sais, comme... Moi, je suis pas grossophobe, mais non.
C'est... Moi, ce qui est important, c'est... Tu sais, j'ai vu ma mère qui a beaucoup de difficultés, là, avec sa santé. Elle est, je te dis, moi, je suis zéro comme toute la famille que j'ai, là. Mm-hmm. Je suis la seule qui est comme je suis, là.
Ouais, okay? T'es le mouton noir.
Non, pas du tout. J'ai jamais été considérée comme un mouton noir. C'est juste, j'étais idéalisée même. Ah, mon Dieu, que t'es donc bien chanceuse. Mon Dieu, que t'es donc bien bonne. Mon Dieu. C'est ça, j'ai été chanceuse. J'ai pas eu de monde qui m'ont dit, oui, on donne, c'est pas d'allure ce que tu fais. C'est jamais arrivé dans ma famille, ni d'un côté ni de l'autre.
Okay.
Sauf que j'ai vu, tu sais, mon père mourir d'alcoolisme, ma mère qui est en pas super bonne santé, ma grand-mère. Moi, j'ai eu mes grands-parents jusqu'à l'âge de 50, 45-50 ans, quasiment. Ouais. Puis j'ai connu mon arrière-grand-mère. une de mes arrière-grand-mères puis un de mes arrière-grands-pères. Fait que, tu sais, c'est quand même... Je suis la plus vieille, mon père était le plus vieux. Fait que ça fait que j'ai pu voir tout ce monde-là.
Ouais, ouais.
Puis la... De voir ma grand-mère, mettons, finir en Alzheimer, puis de comprendre maintenant ce que c'est le mécanisme de l'Alzheimer, j'ai fait... Non, moi, j'ai un pouvoir là-dessus. Mais c'est parce que tes cellules... Tu sais, les gens pensent que le cerveau puis le corps a besoin de glucose. Oui, mais t'as pas besoin d'y en donner. Mm. Il est capable de le fabriquer. Mm. Ça, j'ai appris ça à l'école, là. Je veux dire, j'ai eu des cours de nutrition, là. J'ai appris ça, ça fait 30 ans. C'est pas nouveau, là.
Ouais, ouais.
OK? Le foie est capable de fabriquer du glucose s'il n'y en a pas, pour les besoins qu'il a besoin. Mais si tu donnes autre chose à nourrir à ton cerveau, dont les cétones, lui, il va se nourrir de cétones. Il n'a pas besoin de glucides. Il aime mieux le cétone que les glucides aussi, apparemment.
Le cétone qui est une forme de
sucre. C'est une dégradation des gras.
OK, OK.
Comme les Amérindiens.
Ah, là, comme un keto, bébé, finalement. Le...
Ouais, un bébé naît cétogène.
Oui, oui, OK.
Il naît cétogène. Okay. Puis il boit le lait de sa mère, puis je veux dire,
plein
il
être... gras.
Puis il est gras. Nos bébés sont gros. Pourquoi? Parce que le cerveau est. C'est une grande demande énergétique, le cerveau. Puis la réserve, elle va aller se chercher dans le gras de nos bébés, comparativement à d'autres animaux, que c'est pas la même chose.
Plein de bourrelets.
Mais nous, notre cerveau, il est très, très, très demandant.
Ouais,
puis un enfant, son cerveau se développe beaucoup et vite.
Ouais.
Fait qu'il a besoin de beaucoup d'énergie, tu sais. Mm-hmm. Fait que les cellules deviennent, à un moment donné, si tu leur donnes trop de sucre, ils ne veulent plus en faire entrer dedans. Fait que là, ben, si ton cerveau n'est plus nourri, s'il ne donne rien d'autre comme option, lui, il est overload, on appelle ça résistant à l'insuline. Puis il n'y en a plus de nourriture. Là.
C'est comme ça que le diabète s'en vient.
C'est la même chose. C'est
carrément avoir... diabétique.
C'est de l'hyperinsulinémie. Tu as trop d'insuline dans le sang. Les cellules sont juste plus capables d'absorber. Donc, on devient résistant à l'insuline. Donc, tes cellules sont plus capables d'absorber le sucre. Mm. Fait qu'ils vont le transformer en gras. Là, tu as en graisse. Puis là, tu as le foie gras. Puis là, tu as le pancréas gras. Puis tu as tout ça gras.
Puis des problèmes à l'infini de santé.
Et après, la perte cognitive. Puis les inflammations partout. Puis, tu sais, c'est fou, là. J'ai fait une liste de 30 maladies qui sont associées au surplus de sucre, là, tu sais. Fait que c'est fou comment, malheureusement, le système de santé est extraordinaire pour les traumas. Moi, j'ai dû subir une méga chirurgie il y a 2 ans, là. Sinon, je serais morte, OK?
Ah, ouais, OK.
Alors, bravo pour la méga industrie qu'on a pour des traumas.
Mm-hmm.
Mais pour gérer de la bouffe, gère ta bouffe, t'as pas besoin de l'hôpital pour ça.
Non, non.
Mais le monde ne veut pas faire l'effort, t'sais. C'est trop une drogue, c'est trop
difficile. On nous a beaucoup pris en charge aussi, puis bon, il y a comme toute une paresse qui vient, comme on disait tantôt, là. Mais avant qu'on termine, j'aimerais vraiment ça qu'on parle des dernières années, je pense qu'elles ont été assez importantes dans le changement de paradigme. Est-ce que tu remarques dans ta clientèle, parce que tu donnes des cours, est-ce que tu as vu un boom de gens qui veulent aller vers l'autonomie?
Non, ça n'a pas changé grand-chose pour moi, parce que ça fait quand même 24 ans que je donne mes cours.
Ouais.
Donc, tu sais, je donne mes cours de fromage. Pain, je ne le donne plus en présentiel, ben j'en mange plus, mais je les laisse en ligne. Le savon, les lactos, les plantes sauvages comestibles, transformation des herbes médicinales. Puis là, cuisine faible en glucides aussi, que j'ai commencé à donner depuis 4 ans. J'ai pas vu un boom... Parce que je l'avais déjà. Tu sais, je veux dire, je suis une personne très connue dans mon milieu.
Ouais.
Fait que quand les gens avaient besoin de ça, je l'avais la clientèle. Ouais. Tu sais. Fait que j'ai pas vu un gros changement de clientèle par rapport à ça.
OK.
Mais je pense qu'il y a une conscientisation des gens. Mais encore une fois, moi, je dis, ce que j'enseigne aux gens, c'est que vous n'êtes pas obligé de le produire. Il y a du monde autour de vous qui le produise. Trouvez-en des producteurs de veaux proches de chez vous, des beaux producteurs. Ouais. Encourager ça, acheter un veau complet, un demi-veau. Ouais, oui, ça va vous coûter 2 000 $.
Mais on peut se mettre à plusieurs.
50 semaines, ça fait 40 par semaine. Là.
Ouais, c'est pas si pire. Ça prend la place pour nous, c'est ce qu'on fait maintenant. Là. Puis ouais. Même chose que tu dis, dans le fond, je viens de Nicolette, puis mes parents sont encore là, fait que là-bas, il y a énormément d'agriculteurs. Puis pendant la pandémie, ça s'est vraiment comme organisé. Là. Ouais. Les gens ont fait « OK, qu'est-ce qu'on va faire si on n'a plus accès aux épiceries? » C'était vraiment ça, à un moment donné. Ben, puis ça a créé des mouvements spontanés de... Puis la viande est tellement, tellement meilleure que ce qu'on achète à l'épicerie.
Puis tu sais, tu peux faire tes rillettes, tu peux canner ta viande. Moi, j'ai commencé ça fait 3 ans, là. Je canne la viande.
Canner ta viande?
Ouais. Tu sais, dans un presto. Hey, en Europe, ils n'ont même pas le droit d'avoir ça.
Ah ouais?
Ils peuvent pas faire ça, eux autres. Ils sont obligés d'acheter.
Quoi, à cause des bactéries?
Je sais pas. Mais ils n'ont pas le droit. Mais nous, on a le droit. Fait que je fais mes cannes, je fais de la rillette, de la tête fait fromagée.
T'as une machine pour faire tes conserves, dans le fond, qui va ficeler?
Non, c'est un pot maçon.
Ah, carrément, OK.
Oui, un pot maçon. Comme une confiture, mais sauf que c'est de la viande qu'il y a dedans.
Okay.
Fait que c'est un presto, là, c'est un autoclave qui a de la pression qui monte dedans parce qu'il faut que ça monte à 117 degrés Celsius en dedans de ça.
Okay.
Fait que ça prend de la pression, fait que t'as tout ce qu'il faut pour que la pression monte. C'est bien simple, là, mais...
Ouais.
Puis tu mets tes pots là-dedans, ça va cuire selon la grosseur du pot, 30 minutes, une heure et demie. Mais là, t'en fais. Là. Tu fais une batch. Tu passes la fin de semaine là-dessus, puis t'en as pour l'année presque, tu sais. Fait que tu veux manger vite fait, poup, ouvre un petit pot, c'est prêt, là, tu sais.
C'est cuit déjà.
C'est cuit, tout est prêt, là. Okay. C'est comme si tu achetais des boulettes de viande à l'épicerie en canne. C'est bien meilleur, là, mais...
Sûrement, oui.
Ouais, c'est ça.
Wow, chef boyardie.
Ça aussi, c'est le fun. Tu peux prendre ta viande que t'as, puis te préparer des cretons, puis te préparer... Moi, je fais plus de biscuits et compagnie, mais je fais la bouffe de base, ce que je faisais toujours. Tu sais, je faisais mon fromage, je faisais mon pain, je fais mon savon, vous allez dire, ça se mange pas, mais je fais mes produits, mes teintures mères, mes onguents, mes choses comme ça. Je fais toutes mes affaires de base, tu sais.
Ouais.
Fait que j'ai pas... Sur le coup, quand j'ai arrêté de faire des biscuits, je me suis dit, hey, moi, c'est parce que j'aime ça cuisiner, là. Je vais trouver ça dur.
Ah.
Mais non, j'ai comme transféré mon goût de cuisine à faire des choses comme ça, mais sporadique, là. Tu sais, je fais pas ça à toi fin de semaine.
Non, c'est ça, c'est une entreprise, là, quand tu te lances là-dedans.
Ouais. C'est la saison d'automne, moi, que je fais du canage.
Ouais,
c'est comme ma tête est là, tu sais, puis...
Puis on parlait de communauté tantôt, tu sais, il y a aussi beaucoup des familles qui font ça, se mettent en gang pour faire des grosses quantités de nourriture, puis là, s'échanger.
Oui, c'est le fun, ça.
C'est ça, tu sais, il y a comme des solutions, il faut les trouver, puis il faut les chercher. Je pense que ça va pas venir cogner à ta porte avec « Hey, veux-tu te joindre à nous? » Tu sais, ça prend des initiatives un peu, là.
Puis tu sais, les gens pensent qu'il faut aller au gouvernement pour changer des affaires, là.
Pense pas comme ça, moi.
Faites ça ici dans votre rue, là. Genre cet été, une réunion de voisins où chacun amène un potluck, là.
Mm-hmm.
Pour ceux qui savent pas, c'est d'amener de la nourriture en commun, là. Puis apprenez à vous connaître de même par des fêtes, tu sais. Mm-hmm. Après, tu dis, mon Dieu, j'ai jamais parlé. Tu sais, je suis pas en train de te dire que je suis mieux, là. Moi, il y a des voisins que je veux pas parler trop, là.
Ouais, tu sais, on n'est pas obligé de s'entendre bien avec tout le monde.
Ben non, c'est ça. Sauf que je suis capable de leur parler, mais je ferais pas un deal avec eux, tu sais.
Ouais.
Mais les autres, on a besoin. Garde, tu veux-tu venir ouvrir ma cour? Il y a trop neigé. Garde, allez ouvrir ta cour, mettons.
Ouais.
Là. Tu veux-tu... bon, garde, sa tondeuse est cassée. Garde, je vais aller te le tondre cette semaine, là. Tu sais, on n'est pas... On s'échange des services comme ça, puis... Même les légumes, des fois, ça peut être « Hey, moi, j'ai eu full de cocombes, t'en as-tu?
Oui,
moi, tu me donnes-tu des tomates, tu sais? » Ou
ouais.
Tu fais du troc de même pour le fun, non?
Ouais. Oui, puis on retrouve, en fin de compte, finalement, c'est ça qu'on veut. On veut retourner à ces sources-là, qui étaient un mode de vie beaucoup plus sain, où les gens se parlaient, les gens s'entraidaient, les gens se tenaient la porte au magasin, tu sais, ce genre d'affaires-là. Finalement, juste retrouver un minimum d'interaction saine les uns envers les autres, là.
Ouais.
Je pense que, dans le fond, c'est ça qu'on cherche. T'sais, si tu te garoches là-dedans parce que tu dis demain, agenda 2030, ils veulent nous faire manger des insectes et tout ça, il y a des chances que tu t'offres pas dans ton projet.
Moi, ce que j'ai pas hâte de voir, c'est que dans certains pays, ils interdisent même de faire tes animaux, tu sais.
T'es-tu sérieuse?
Ouais. Fait que en Europe, c'est quoi, j'ai vu passer, dans quel pays? C'était-tu en Norvège? Je sais pas trop. Là, je veux pas dire rien parce que je peux être mêlée.
Ouais.
T'as plus le droit d'abattre des chevaux. Parce que, tu sais, c'est un animal intelligent, puis le fin... Ouais,
mais ils sont tous intelligents, les animaux.
Oui, oui, mais c'est parce que... C'est quoi la prochaine affaire, là? Vous allez nous dire qu'on peut pas abattre notre veau, qu'on...
Ah, puis il y a aussi les gaz de vache qui créent des effets de serre,
c'est ça.
On va finir... Mais d'ailleurs, ça fait partie... je sais pas si tu as vu ça, là, mais le projet... que Valérie Plante fait partie, là, ils ont comme sorti leur plan jusqu'à 2030, ça s'appelle C40, c'est un genre d'organisme que c'est les plus grosses villes à travers le monde... Puis...
Le projet 15 minutes, là?
C'est pas ça. Ça fait partie, par exemple, c'est tout dans le même... Ça s'en va tout dans la même direction, mais c'est Nathalie El-Grabli qui a sorti ça il y a une semaine ou deux. Je vais le résumer en gros parce que je pense que c'est important que les gens comprennent vers quoi on s'en va, là, mais je vais faire éventuellement juste une chronique là-dessus. C'est... dans le fond, ce que je comprends, c'est que c'est 180 les plus grosses villes du monde qui font partie de cet organisme-là. Là. C'est un genre de gang. Fait qu'au Canada, il y a Montréal, Toronto et Vancouver. Puis Valérie Plante est la vice-présidente de ça. Puis là, ils ont sorti un genre de projet où ils expriment dans leur projection pour 2030. Puis il y a comme les très, très ambitieuses. Puis il y a les moyennement ambitieuses. Puis c'est de, justement, de plus, zéro, dans les plus ambitieuses, c'est 0 kg de viande par personne, 0 kg de lait, de produits laitiers. Là, c'est, on ne mangera plus.
De quoi tu te mêles?
Ben exactement! C'est comme, mais moi, c'est ça, je pense qu'il est temps que les gens prennent conscience que quand on vient nous dicter qu'est-ce qui rentre ou rentre pas dans notre corps, c'est une forme d'esclavage.
Absolument.
On revendique mon corps à moi, puis on me dit qu'est-ce qui est bon pour moi.
C'est la religion. C'est pareil comme la religion.
Oui, puis moi, je n'accepterai pas de me faire devenir un esclave. Là. C'est juste pas une possibilité pour moi. Puis on parle pas d'un projet lointain dans 2075, là, on parle dans 7 ans, même pas 6 ans. C'est comme demain. Fait qu'il est temps que les gens prennent conscience de ça, puis oui, t'as raison de t'inquiéter de comment ils vont intervenir pour mettre ça en pratique. Là, oui, c'est à Montréal, c'est une ville. Mais on voit là l'espèce
c'est
de
quoi il y a d'où ils ont pu les épiceries de vendre de la viande
c'est qu'est-ce que où on va avoir une ration puis là si tu c'est veux ça. Plus que ça il faudra que tu payes plus cher ou tu sais ça va être comment ça va être mis en application c'est pas très clair mais les questions se posent en tout cas
y a, ça c'est... reste que quelqu'un qui a eu l'idée de faire ça là
mais ben oui puis il y en a qui ont endossé à fond là.
Ouais puis tu sais il s'agit juste qu'ils disent t'as plus d'abattoir enlève un abattoir.
Oui, ça vient de couper bien des gens.
L'agriculteur n'a pas le droit de tuer l'animal pour le vendre à son client. Là.
Non, c'est vrai.
C'est illégal, on n'a pas le droit de faire ça.
Aïe, aïe.
Fait que moi, je peux le faire pour moi. Jusqu'au jour, ils vont décider que peut-être je ne pourrai plus. Mais là, je peux le faire pour moi. T'sais.
Fait que cette liberté-là est très provisoire, on est conscient. Aussi, c'est qu'on a vu à quel point ils ont été prompts à nous couper des libertés fondamentales dans les dernières années. Puis pas de façon ponctuelle, ça a été long.
Tu peux décider de ne plus avoir le droit de te promener dans les rues à telle heure, là. Tu vas aller le porter comment, ton animal, à la boucherie, qui va fermer parce qu'ils disent de fermer parce que s'ils rouvrent leur porte. Tu sais, ça va loin, là, toutes ces affaires-là. Puis là, je pourrais pas croire que les gens font comme, ben voyons donc, voir si
mais
ça se peut.
Mais on s'est dit ça pendant les dernières années, puis ça n'a pas réagi tant que ça.
C'est ça.
Ils vont pas, quand ils vont dire d'injecter nos enfants avec un traitement expérimental, je peux pas croire que les parents vont pas se révolter. Ah ben, non! Fait que, tu sais, pour moi, ça a été comme, ah ben, ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Exactement. On est prêts à se faire tout ce qu'on veut, parce que si tu le fais pas, ils vont t'enlever ta job, ils vont t'enlever ci, ils vont t'enlever ça. Fait que là, tu veux pas perdre ça, tu sais.
Exact.
Puis c'est ça qui est pernicieux, là. C'est qu'on voit qu'on est vraiment... tu sais, on peut être soumis facilement, parce que si on t'enlève tous tes droits, tu vas acquiescer, là.
Ben, puis c'est ça, je sais pas si tu connais Yeonmi Park, c'est une dissidente du régime totalitaire nord-coréen. Elle a réussi à se sauver.
Oui, elle a passé à Joe Rogan.
Exactement. Ah, oui. Moi, j'avais entendu Alex Friedman, j'ai préféré parce que Lex est pas mal plus empathique et doux, là. Joe Rogan, c'était comme un peu intense, mais oui, puis elle a fait un livre que mon chum a lu. Moi, je l'ai pas lu, mais j'ai écouté toutes ses entrevues, je pleurais en l'écoutant. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous le recommande vraiment. Puis elle expliquait qu'elle a... Elle a eu un 2 minutes, comme on dit en bon québécois, quand elle est arrivée dans les universités des États-Unis en pensant qu'elle était dans le Land of Freedom, puis qu'elle a réalisé que c'était de l'endoctrinement, puis qu'on ne nous enseignait plus à réfléchir, qu'on nous enseignait à penser d'une façon, la bonne façon, puis si tu remets ça en question, t'es un méchant, tu sais. Puis elle disait, vous pensez comment que ça a commencé, la Corée du Nord? Ma grand-mère n'était pas dans un régime totalitaire. Ça s'est fait progressivement. Puis à un moment donné, ils ont accepté d'être « Ah, OK, bon, on va laisser passer cette liberté-là, puis une autre, puis ben ah, là, c'est devenu, on pouvait plus, c'était irréversible.
Ouais. »
Puis c'est ça qui se passe en ce moment, tu sais, quand les gens nous disent « Allez donc en Corée du Nord, puis arrêtez de vous plaindre au Canada. » Mais ici, notre démocratie est supposée être encore vivante, puis on serait supposé vouloir sauver ses principes fondamentaux. Fait que si on voit qu'on est en train de glisser vers quelque chose de totalitaire, c'est là qu'il faut prendre position, c'est pas quand il va être trop tard, tu sais.
Ben un peu comme, je pense, les îles d'Amadène ont fait l'autre fois.
Ouais.
Et ça passait pas. Hein,
puis c'était beau de voir ça.
Oui, puis crime, c'est un petit peuple, puis...
Ils se sont tenus debout.
Ils se sont tenus debout, c'est ça. Fait que c'est sûr que s'il leur avait... c'est peut-être un test, je sais pas. S'il leur avait dit « t'auras plus le droit de peut-être qu'il aurait acquiescé, tu sais. Là, c'était au stade expérimental.
Ils perdaient pas grand-chose.
Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que je sais pas jusqu'où ça peut aller, toutes ces affaires-là, mais je sais que c'est bizarre tout ce qui s'en vient, je pense. Ouais. J'essaie de pas trop y penser parce que... Puis pas parce que je veux mettre la tête dans le sable, là. C'est juste que...
Cette anxiété
quand on est
dedans,
ça fait déjà assez mal. Je ne m'userai pas la santé avant puis après. Je sais que moi, je tiens mon point quand je choisis quelque chose, puis c'est ça que j'essaie de faire. Puis d'être le plus autonome possible, savoir les choses, les faire moi-même, en sachant... Tu sais, moi, je serais capable de manger des grenouilles, là. J'ai pas de problème à tuer un pigeon, là. OK?
Un petit rat.
Un écureuil. Mal pris, je vais en manger du rat. Là. J'en trouverai pas, il n'y en a pas chez nous. Là, mais...
Les écureuils, il n'en manque pas.
Oui, c'est pas légal, on n'a pas le droit, mais en survie...
C'est un fléau!
Oui, mais c'est illégal, t'as pas le droit de chasser des écureuils, ça prend des permis et tout. Là. La grenouille aussi, ça prend des permis de chasser à la grenouille, mais on s'entend-tu que...
Il y a personne qui va débarquer chez vous, t'as mangé une grenouille.
Non, en tout cas, en même temps, ils nous obligent à rester dans nos maisons pas sortir sur le balcon des fois, là. Ils font ça, là.
Ouais.
Mais bon, mettons que...
Bien mal pris, tu saurais te débrouiller.
Je vais en manger des bébites bien mal pris, tu sais. Ouais. Faut savoir lesquelles, là, mais ouais, ça s'appelle la survie, c'est pas quelque chose qui est obligé de faire partie de notre vie, tu sais.
Non, c'est ça.
Mais oui, je suis capable, très capable de faire ça, tu sais. C'est moi qui tue les poules chez nous, là.
Ouais.
Fait que... Je trouve que c'est important parce que justement, d'enlever tout ça aux gens, c'est là que tu deviens dépendant.
Ben oui.
T'es plus capable de faire rien, puis t'as même pas de terrain pour faire pousser de la bouffe. Ça fait que tu fais quoi? T'es dépendant du système au bout, tu sais. Puis là, je vous dis pas qu'on est obligé de tout produire, mais au moins, trouvez-vous du monde autour qui produise proche de vous.
Oui. Ben en tout cas, on a des bonnes pistes de solutions. Merci pour ton temps. On va redire, c'est lasourcière.ca pour ceux que ça intéresse. Ouais. Cours en présence et cours aussi à distance.
En ligne, oui. C'est des vidéos déjà toutes là. Il n'y a pas, c'est pas un Zoom qu'il faut que tu te plugues en même journée. Tu sais,
t'achètes le matériel, tu le regardes quand tu veux.
C'est ça. Puis tu as accès à vie.
OK.
Fait que c'est tout monté... Moi, je suis une personne le plus simple possible parce que j'haïs ça, c'est compliqué la vie. Fait que je vais toujours montrer des solutions faciles aux gens. Je suis pas du style, là, ça vous prend de l'huile de coucouille qui vient de l'Afrique du Sud,
qu'il y a pas moyen de trouver.
Ça prend des frais de transport de fou.
J'essaie
toujours d'y aller avec ce qui est disponible autour de vous pour faire les produits.
Concrètement, au Québec, qu'est-ce qu'on a sous la main?
Ouais.
Ben merci d'être venu. C'était super intéressant. On était loin dans le jardinage, mais j'espère qu'on est au début de la saison. Fait, j'espère que ça va donner des pistes de solutions. Puis ben on se reverra certainement
avec plaisir.
Peut-être en personne dans tes jardins. Merci encore.
Avec plaisir.
Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveutsavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, V-E-R-I-T-E. Merci!